18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Je suis ravie de vous retrouver en effet depuis les studios d'Europe 1 qui m'avait manqué à Paris et à l'écoute de ce monde qui change avec vous et que nous suivons jusqu'à 20h. 18h15, Emmanuel Macron installe une commission d'experts pour repenser l'économie mondiale. Et pendant ce temps-là, eh bien Renault supprime 4600 emplois en France. Nous serons avec l'économiste Patrick Artus, convié à l'Elysée pour évoquer ces grands enjeux. 18h30, on refait là-dessus avec cette querelle d'experts autour de la chloroquine. Réaction et retour d'expérience aussi à suivre ce soir avec le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou. Nous mettrons aussi un artiste à la une ce soir, il s'agit de Claude Lelouch, 82 ans, qui vient de réaliser le premier film du déconfinement, c'était il y a quelques jours sur le circuit du Grand Prix de Monaco. 18h50, une chanson dans la tête, les 40 ans de carrière d'Indochine.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
Fabien Lecoeuvre reviendra avec nous sur les grandes étapes de parcours de ce groupe pop-rock à succès. 19h15, les départements en première ligne pour relancer l'activité économique. Nous serons avec Dominique Bussereau, président du département de Charente-Maritime. 19h30, l'œil de Frédéric Dabi, comme chaque samedi. Et puis 19h40, affaire à suivre. Comment faire du monde d'après un monde plus propre et plus responsable? C'est l'engagement depuis une dizaine d'années du réalisateur Cyril Dion qui nous rejoint. Voici pour commencer le journal de 18h avec Fabienne Lemoyne, que je suis heureuse aussi de saluer avec vous. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 18h.
MCA emploie 2100 salariés directs. À terme, ça pourrait être plus de 12 000 personnes qui pourraient mourir de faim. Il n'en est pas question.
C'est toute une ville qui est descendue dans les rues de Maubeuge ce matin pour soutenir les salariés de Renault, des salariés qui redoutent le départ de leur production vers un autre site du groupe.
Une nouvelle étape du déconfinement avec les parcs et jardins publics rouverts, une décision très attendue, notamment en région parisienne.
Moi, je trouve ça cool pour pouvoir jouer, trouver de nouveaux copains. Ici, si on se fait des amis, on peut jouer à chat, par exemple. Faire du toboggan ou jouer au ballon.
Et puis aux États-Unis, la colère ne retombe pas après la mort de George Floyd, scène de violence encore la nuit dernière à Minneapolis.
Les Américains, ils se préoccupent plus des choses matérielles que d'une vie humaine. On ne peut pas nous tuer comme des chiens.
Voici ce qui nous attend jusqu'à 20h ce soir sur Europe 1. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Fabienne Lemoyne, ils étaient donc plusieurs milliers dans les rues de Maubeuge, tous venus soutenir les salariés de l'usine Renault à l'arrêt depuis l'annonce du plan d'économie du constructeur automobile.
Un plan qui prévoit 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France, après les pertes du constructeur liées à l'épidémie. À Maubeuge, les salariés de Renault redoutent que l'activité de production de la Kangoo électrique soit transférée sur un autre site du groupe. Maximilien Carlier a suivi le cortège impressionnant pour Europe 1.
C'est une marée humaine devant l'hôtel de ville. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Tous masqués, tous mobilisés. Des familles, des élus, personnel soignant, entreprises du secteur. Bien sûr, les salariés de l'usine et les syndicats. Sur le balcon de la mairie, Jérôme Delvaux de la CGT.
Nous voulons continuer de vivre ici sur le territoire. MCA emploie 2100 salariés directs. À terme, ça pourrait être plus de 12 000 personnes qui pourraient mourir de faim. Il n'en est pas question. Nous allons nous battre.
Se battre pour éviter qu'une partie de l'activité de l'usine de Maubeuge soit transférée à Douai, opposer les deux sites, c'est non pour Frédéric Chirot, le maire de Douai.
On ne va pas déshabiller un territoire pour en rhabiller un autre. On sait ce que c'est que la difficulté économique. Nous aussi, on a des familles qui dépendent de cette usine à Douai. Et si on devait renforcer l'usine de Douai en sachant qu'on a mis dans la difficulté, dans la misère des familles à Maubeuge, on aurait du mal à se regarder dans un miroir.
Et aucune reprise d'activité n'est prévue ici dans la Sambre. Aucune voiture ne sortira de l'usine dans les prochains jours, ont prévenu les syndicats. Maubeuge, Maximilien Carlier, Europe.
Et nous reviendrons sur cette actualité avec mon invité, chef économiste et membre du comité Natixis, Patrick Artus, dans 10 minutes sur Europe 1. Comme un avant-goût de la phase 2 du déconfinement ce samedi, à travers toute la France d'ailleurs, avec la réouverture des parcs et des jardins publics, Fabienne.
Et comme cela était attendu, Wendy, en région parisienne, notamment par ceux qui ne pouvaient pas partir à la campagne, Sophie Echen a rencontré, vous allez l'entendre, des promeneurs heureux au parc Billancourt à Boulogne dans les Hauts-de-Seine.
Un manque de verre dans nos appartements de Parisiens.
Donc effectivement, pouvoir profiter d'un espace plus grand et voir des gens, c'est pas mal.
Après une balade à vélo en famille, Loïse profite d'un petit air frais dans les allées du parc. Enfin, un peu de nature sans le bruit des voitures, dit-elle. L'occasion de bien s'amuser pour sa fille Lucille, 7 ans et demi.
Moi, je trouve ça cool pour pouvoir jouer, trouver de nouveaux copains. Ici, si on se fait des amis, on peut jouer à chat, par exemple. Faire du toboggan ou jouer au ballon.
Un peu plus loin, assise sur un banc, à l'ombre avec un mètre d'écart, Monique et Evelyne, deux anciennes voisines de 89 et 77 ans, refont le monde. Grande retrouvaille dans leur parc habituel après le confinement.
On a l'habitude d'y venir à n'importe quelle saison parce qu'on apprécie beaucoup ce parc.
On est content parce qu'on peut sortir, c'est surtout ça.
Ici, on profite du beau temps, au pique-nique, on joue au foot, au badminton et ça part même en féroce bataille d'eau par endroits. Et il y a ceux qui profitent simplement de pouvoir s'allonger à nouveau dans l'herbe au soleil.
J'ai pour projet d'aller mettre mon haut de maillot et bronzer mon petit body. Donc ça fait plaisir.
Prochaine étape pour ces habitants de la région parisienne, la levée mardi de la barrière des 100 km pour aller vraiment se mettre au vert.
Sophie Echen à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Un traitement donné à des malades désormais à la une. Un traitement qui présente, avec ces malades qui présentent des formes graves du Covid. C'est un traitement qui donne des résultats encourageants.
C'est en tout cas le résultat d'une enquête publiée aujourd'hui dans le Lancet Rhumatologie et ce sont des médecins français de l'hôpital Saint-Joseph à Paris qui ont administré à ces malades de l'anakinra qui est déjà prescrit mais pour d'autres maladies, Nicolas Feldman.
Oui, l'anakinra, une molécule bien connue des rhumatologues, utilisée pour traiter notamment les polyarthrites rhumatoïdes et toute une série de maladies inflammatoires. Et justement, l'une des complications du Covid, c'est cette inflammation générale, ce moment où un patient se retrouve en détresse respiratoire aiguë. Pour prévenir donc ce stade de la maladie, les médecins de l'hôpital Saint-Joseph ont administré pendant 10 jours l'anakinra à 52 malades du Covid-19 dans un état grave. 44 autres ont suivi un traitement classique. Résultat, sans l'anakinra, près de 3 patients sur 4 ont dû être placés en réanimation ou sont même décédés. Pour les autres, les patients traités avec cette molécule, il y a eu 3 fois moins de victimes. Gilles Ayem de l'hôpital Saint-Joseph, l'un des auteurs de l'étude, mise donc sur ce traitement pour les cas graves.
Ce sont des gens qui du coup ont échappé à 2 spectres, qui est le décès, et l'autre, c'est le passage en réanimation, est aussi un moment très particulier au cours duquel on sait qu'on est exposé non seulement aux complications de la maladie, mais éventuellement à d'autres qui sont finalement inhérentes à n'importe quel type de réanimation.
Alors cette étude, certes encourageante, n'est pour le moment réalisée que sur un petit échantillon de patients, mais des spécialistes à travers le monde veulent poursuivre dans cette voie. En effet, l'un des autres avantages de l'anakinra, c'est qu'il y a très peu de risques, notamment d'effets secondaires sur les patients.
Anakinra versus chloroquine, on en parlera notamment avec notre invité Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, qui nous rejoint à 18h30 sur Europe 1, Marlène.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et nous partons aux États-Unis, Fabienne. Va-t-on vers une nouvelle nuit de manifestations et de violences? Ce serait la 5e, en tout cas depuis la mort lundi de George Floyd, lors d'une interpellation par la police à Minneapolis.
Et l'arrestation du policier inculpé pour acte cruel ayant causé la mort, le policier qui a maintenu à terre en appliquant son genou pendant de longues minutes sur le cou de cet homme noir de 46 ans, n'a pas calmé la colère. Une colère qui a gagné tout le pays jusqu'à des rassemblements devant la Maison Blanche. À Minneapolis, la ville s'est réveillée pour découvrir les dégâts d'une nouvelle nuit de chaos malgré le couvre-feu et l'envoi de la garde républicaine. Le récit de l'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon.
Une barricade de flammes bloque toute l'avenue. Il est 2h du matin et Minneapolis brûle toujours. Les ombres des manifestants dansent devant le brasier. Certains sont montés dans l'immeuble voisin. Ils cassent et jettent le mobilier par les fenêtres pour alimenter le feu. D'autres pillent des magasins. Quand l'Amérique perd de l'argent, c'est là qu'on arrive à avoir son attention, justifie Charles. Les Américains, ils se préoccupent plus des choses matérielles que d'une vie humaine, continue le jeune Afro-Américain. On ne peut pas nous tuer comme des chiens. Les policiers en position un peu plus loin n'interviennent pas, ils protègent un commissariat pour éviter qu'il ne brûle comme celui du 3e district la veille. On a brûlé un putain de poste de police et tous les États nous ont suivis, se réjouit Dee. Los Angeles, le Michigan, la station de CNN attaquée à Atlanta. On a foutu le bordel en Amérique, conclut-il, prêt à recommencer la nuit prochaine. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
maire de Minneapolis vient de nouveau de lancer un appel au calme à la population. Toujours aux États-Unis, c'est à 21h22 qu'est programmée la deuxième tentative pour le lancement de la navette SpaceX qui a dû être reportée cette semaine à cause du mauvais temps, mais il y a encore une chance sur deux que ce soit le cas ce soir car les orages sont toujours d'actualité sur Cap Canaveral.
Nous voici à 3 jours de la deuxième phase du déconfinement mardi et on parle beaucoup de la réouverture des restaurants, mais ils ne sont pas les seuls à reprendre du service. Ce sera mardi le 2 juin, Fabienne.
C'est le cas aussi de plusieurs musées et des monuments et ça y est, on connaît la liste et le calendrier, Diane Chenouda.
Cette réouverture va s'étaler sur un mois et demi. Ce sera le 6 juillet, pas avant, pour le musée du Louvre, qui ne pourra sans doute pas accueillir plus de 30% de ses visiteurs habituels. Avec comme partout la réservation en ligne, le port du masque obligatoire, la réduction de jauge donc, et des parcours balisés. Le château de Versailles, lui, va pouvoir ouvrir dès le 6 juin, et Chambord dès le 5 juin, avec un sens pour la montée, un sens pour la descente dans l'escalier central, comme c'était le cas autrefois. Le Grand Palais, le Centre Pompidou, eux, rouvriront le 1er juillet. Réouverture prévue le 23 juin pour le musée d'Orsay et le 22 juin pour le musée de l'Orangerie. Mais dès le 9 juin, le musée du Quai Branly Jacques Chirac sera à nouveau accessible au public. Ce sera le 3 juin pour le Louvre-Lens et dès le 2 juin pour le musée Marmottan. Tous attendaient ce moment avec impatience, même si remettre en route des géants comme le Louvre ou Versailles ne se fait pas en un jour. Il faut aussi l'accord des syndicats, garantir la sécurité des agents qui sont en première ligne face au public. Le Louvre a plus d'un mois pour y arriver.
Diane Chenouda.
Merci Fabienne Lemoyal, que l'on retrouve demain à la présentation d'Europe Midi et pour celle du 18h sur Europe 1 de la culture. On passe au sport avec vous Lionel Rousseau et le sommaire d'Europe 1 Sport dès 20h. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy, dès 20h, deux invités majeurs, deux femmes de sport. D'abord Roxana Maracineanu, la ministre des Sports qui sera avec nous pour parler notamment de la reprise de la pratique sportive les 2 ou 22 juin et la polémique autour du football professionnel avec notamment Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, et Marie Pierce qui a gagné Roland-Garros il y a 20 ans. C'est la dernière Française qui avait remporté ce tournoi qui devrait avoir lieu en ce moment, qui aura lieu donc au mois d'octobre. On reviendra sur les bons moments avec elle.
Belle affiche à suivre sur Europe 1 à partir de 20h. À vos côtés Lionel Rousseau, merci beaucoup. Petit point météo avec vous Valérie Darmon, et c'est globalement beau, voire très beau encore demain dimanche Valérie.
Eh bien, le temps qui évolue assez peu avec toujours quelques nuages dans l'est et au sud et beaucoup de soleil ailleurs sur le relief de la Corse, les Alpes, le sud du Massif central, la chaîne pyrénéenne. Attention aux orages toujours en fin de journée. Et lundi de ce week-end prolongé, plus nuageux dans le sud-ouest cette fois, encore bien ensoleillé ailleurs. Les maximales, elles vont toujours osciller entre 24 et 30 degrés en général, 19 à 24 en bord de Manche, où elles vont remonter parce que le vent va faiblir. Et il fera en ce dimanche des valeurs entre 19 à Cherbourg et 32 à Bordeaux et à Mont-de-Marsan. À Paris, Clermont-Ferrand et Carcassonne, 26 degrés annoncés à vos thermomètres.
Merci Valérie Darmon et on refera un point à 18h30 sur Europe 1. 18h14, la suite du Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard. Vous êtes bien sur Europe 1 et nos invités nous éclairent sur ce monde qui change. Avec Wendy, un chômage record en France pour ce mois d'avril.
Oui, 843 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus sur un mois, un pic brutal, le plus fort de ces 20 dernières années. Un chiffre lié évidemment au confinement, mais aussi au passage des chômeurs en activité à un chômage complet. Comment la situation va-t-elle évoluer demain, après-demain? Bonsoir Patrick Artus.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste et membre du comité exécutif Natixis. Jamais la France n'aura connu un tel épisode, l'État devenant le temps de cette crise le plus grand employeur de France. Que faut-il déjà retenir de cette expérience de chômage partiel, Patrick Artus?
Bien, sans doute qu'elle a évité le pire. On a essayé d'avoir, enfin dans tous les pays d'ailleurs, pas seulement en France, une politique économique qui avait un double objectif, qui était d'une part de maintenir le revenu autant que possible des salariés, et d'autre part d'éviter autant que possible les faillites des entreprises. Alors bien sûr, on peut pas avoir une performance à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des faillites, vous le savez, et puis on a une hausse du chômage. Vous le disiez à l'instant, qui est un peu particulière, parce qu'il ne s'agit pas de licenciement, il s'agit d'un certain nombre de Français qui auraient dû trouver un emploi et qui n'en ont pas trouvé un.
Absolument.
Ou bien qui sont en fin de contrat court, en fin de contrat d'intérim. Donc effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de licenciement, très peu, mais nous avons surtout des entreprises qui n'embauchent pas. Alors le danger, si vous voulez, c'est que, alors bien sûr, ces politiques vont être poursuivies. Hein, le chômage partiel sera maintenu pour les salariés des secteurs en difficulté. Les déficits publics vont continuer à être très importants l'année prochaine, et on va continuer à aider les entreprises. Le danger, c'est que la situation se dégrade, si vous voulez, continuellement dans les 6 mois, 10 mois, 12 mois qui viennent. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un certain nombre de secteurs d'activité qui vont rester durablement en très mauvais état. Et ça, c'est une particularité de cette crise. Elle est très hétérogène. Si vous êtes dans les services informatiques ou dans la distribution en ligne, aujourd'hui, vous allez très bien. Si vous êtes une compagnie aérienne ou un constructeur automobile, vous allez très mal. Et ça rend cette crise compliquée aussi, parce qu'il va falloir que de l'emploi passe des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui vont bien. Mmh. Et ça, c'est compliqué et ça marche pas forcément. Donc on a ce risque de chômage qui continue à monter. Et puis, les entreprises se sortent de la crise pour l'instant en s'endettant, hein, et en particulier avec les fameux PGE, hein, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État. Mais ces entreprises vont être plus endettées. Et des entreprises plus endettées, elles sont plus fragiles, elles ont moins envie d'investir, elles ont moins envie d'embaucher. Vous voyez, le risque, si vous voulez, c'est que ça s'arrête pas même quand on commence à déconfiner. Hein. Le risque, c'est que le choc laisse des traces sur certains secteurs, sur l'endettement des entreprises, qui après font qu'on continue à se dégrader au fur et à mesure que le temps avance.
Ah oui, bien entendu, Patrick Artus. Je voulais revenir sur le secteur de l'automobile, qui est aujourd'hui l'un des perdants de ces deux mois et demi, trois mois de crise. Conséquence pour Renault de surcapacité de production dans ce monde qui bouge. 15 000 suppressions d'emplois annoncées dans le monde, 4 600 en France. C'est la conséquence directe d'une recomposition justement de cette économie qui avait commencé déjà un petit peu avant la crise du coronavirus, Patrick Artus.
Alors, le secteur automobile était en difficulté avant la crise, hein, Renault, Nissan et bien d'autres, hein, les Américains. Et donc, on a une situation où, d'une part, on a un changement technologique devant nous extrêmement important. On va passer à la voiture électrique. Hein. Si on doit respecter, et c'est particulièrement vrai en Europe, si on doit respecter les normes environnementales de l'Europe, il va falloir, d'ici 10 ans, que plus de la moitié des voitures vendues soient des voitures électrique. Et évidemment, une voiture électrique, c'est pas du tout la même chose qu'une voiture traditionnelle. Hein. Et en particulier, en ce moment, et tant qu'on n'a pas réussi à développer cette production en Europe, l'Europe importe la totalité des batteries qui font 30 ou 40% de la valeur d'une voiture électrique.
Évidemment.
Donc un premier choc, c'est qu'il y a beaucoup moins d'heures de travail en Europe sur une voiture électrique que sur une voiture normale. Et puis, il y a peut-être une saturation aussi de ce type de marché. Hein. On a peut-être moins envie de voiture, moins besoin de voiture. Hein. On a un changement. D'ailleurs, le monde, si vous voulez, depuis maintenant 20 ans, devient de plus en plus une économie de services. Hein. Les services croissent beaucoup plus vite que l'industrie. Donc, on achète moins de voitures, on achète moins de produits industriels, on consomme davantage de services,
Patrick,
de services
Artus,
à la personne, de loisirs, etc.
Et c'est votre expertise que, notamment, vous avez mise à profit en étant reçu par Emmanuel Macron il y a quelques jours à l'Élysée avec d'autres confrères et économistes. Avec cette incertitude, l'une de ces incertitudes, c'est est-ce que la consommation va repartir? Y aura-t-il le rebond espéré? Et là, je voudrais vous faire réagir sur les mots, sur la posture de la ministre du Travail qui a appelé il y a quelques heures les Français à ressortir pour consommer les 60 milliards d'euros qu'ils ont mis en épargne pendant le confinement pour relancer l'économie. Parce que ça, c'est une inquiétude que cette relance ne se fasse pas par la consommation aujourd'hui.
Oui, alors on peut observer la Chine, ce qui est assez intéressant, parce que la Chine a 2 mois d'avance sur nous, oui, hein, dans le déconfinement, puisque à part Wuhan, le reste a été déconfiné le 24 mars, si je me rappelle bien. Hein. Et donc, on voit en Chine un consommateur très très prudent, hein, qui consomme pas énormément. La consommation, elle est toujours 8 ou 10% en dessous du niveau d'avant la crise. Le consommateur chinois est devenu frugal, nous dit-on. Hein, et parce que la crise, peut-être, d'abord, les gens étaient 2 mois chez eux, donc ils ont réfléchi qu'on pouvait faire autre chose que de consommer frénétiquement. On a changé la façon dont on consomme. Ce qui est très impressionnant, c'est la hausse énorme de la consommation en ligne par rapport à la consommation dans la distribution traditionnelle. Et vous consommez pas la même chose en ligne, hein, que dans la distribution traditionnelle. Et puis, bien sûr, il reste, et ça, c'est un vrai problème que nous allons avoir aussi, il reste les normes sanitaires. Hein. Oui. On a peut-être moins envie d'aller dans un magasin, moins envie d'aller dans un restaurant, la culture, enfin, voilà. Mais ce qu'on voit en Chine, c'est une très, très grande frugalité, hein, une très grande prudence du consommateur. Et d'ailleurs, aussi aussi des entreprises. L'investissement des entreprises reste très très faible par rapport à son niveau d'avant la crise.
Mais voilà, en retour d'expérience,
évidemment, je comprends que Muriel Pénicaud soit prudente, parce que nous voyons bien que ce consommateur peut rester longtemps très prudent, probablement après une crise aussi violente.
Bien sûr. Dernière réaction et question à l'installation hier par Emmanuel Macron d'une commission d'économistes français et internationaux qui devra plancher sur des grands défis mondiaux dans le contexte post-crise. Le climat, vous en avez un peu parlé déjà, les inégalités et la démographie. Rien ne se fera à la seule échelle d'un pays. En tout cas, ça c'est une certitude, Patrick Artus. Voilà pourquoi on commence à mutualiser la dette en Europe, par exemple.
Oui, alors évidemment, plein de choses sont européennes. Je voulais juste dire avant que nous avons la chance d'avoir en France de très bons jeunes économistes.
Oui.
Qui s'exportent très bien d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre eux travaillent aux États-Unis, et je trouve que c'est une très bonne idée de faire contribuer ces jeunes économistes français brillants à la réflexion, même quand ils sont en poste dans des universités américaines. Et ensuite, sur votre point, y a plein de choses qui ne peuvent se faire qu'au niveau de l'Europe. Si nous voulons faire des plans de relance par des investissements intelligents, et si on veut pas laisser à la porte de ça les pays périphériques comme l'Italie, il va falloir les aider à les financer. Donc là, l'Europe a un rôle évident. Et puis autre sujet, si nous voulons avoir ce qu'on appelle un prix plancher du CO2, c'est-à-dire en Europe être plus vertueux que les autres pays et taxer, enfin c'est pas taxer, c'est valoriser de façon raisonnable les émissions de CO2 de manière à les réduire, ceci n'est possible que s'il y a une taxe CO2 à la frontière de l'Europe, sinon évidemment on crée un désavantage compétitif pour nos entreprises. Donc vous voyez que la plupart des solutions à cette crise n'ont de sens qu'au niveau européen.
Eh bien merci Patrick Artus, il ne suffisait pas de 8 minutes pour vous entendre sur ces grands sujets, mais ce sera un plaisir de vous redonner la parole dans les semaines qui viennent. Vous qui venez de publier 40 ans d'austérité salariale, comment s'en sortir? Votre ouvrage chez Odile Jacob. Vous qui êtes chef économiste et membre du comité exécutif Natixis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nos auditeurs ont pu découvrir cet après-midi un ancien entretien d'Isabelle Morizet avec Guy Bedeau, c'est qu'on peut réécouter d'ailleurs sur notre site europe1.fr. Et dans un instant, avec vous Wendy, eh bien on va prolonger cet hommage.
Mais oui, je voulais lui rendre hommage aussi à notre manière, avec un petit extrait et puis un sketch surtout écrit par l'un de ses frères de cœur, Jean-Loup Dabadie. Eh oui. À tout de suite.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Et à 18h25, ce soir, Wendy, vous vouliez aussi rendre hommage à un grand artiste disparu jeudi, Guy Bedos.
Oui, Guy Bedos était libre, il avait de l'audace, il avait un ton, une irrévérence et du courage. Vous aimiez ou non, sa critique sociale, elle était pleine d'esprit. Guy Bedos était un grand que, comme d'autres, évidemment, j'avais eu la chance de recevoir en 2013 dans Europe Midi. C'était une émission en direct, en public, et il venait présenter ses adieux à la scène, à l'Olympia, quelques jours avant ce spectacle. Il était face aux auditeurs d'Europe 1, Guy Bedos, en 2013. Petit hommage pour vous ce soir.
Je voulais surtout vous dire que j'aime votre colère et votre révolte. Je peux vous dire aussi que vous avez été et que vous êtes encore un grand acteur social. Mais où trouvez-vous votre énergie pour mettre le doigt là où ça fait mal? Et ce que j'aime aussi, c'est votre côté papa poule. Parce qu'on l'a dit dans une émission, je vous ai trouvé adorable avec vos enfants.
C'est vrai, Guy Bedos.
Oui, c'est très gentil ce que vous me dites.
Et ça, vous n'entends pas du tout.
Ça me touche beaucoup. Parce que je suis très sensible aussi, je vous le dis tout de suite. Alors faites attention tous, parce que je vais pleurer dans deux secondes, moi. J'ai déjà chialé chez Drucker l'autre soir pendant tout un dimanche. Alors basta.
Encore une question, jeune homme.
Bonjour monsieur Bedos. Vous nous avez expliqué il y a quelques instants que lorsque vous vous sentez offusqué... Vous...
Je suis s'approche de vous.
Attention.
Attention,
que lorsque vous vous sentez offusqué, vous avez ce besoin de répondre, notamment à certains politiques. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas vous lancer en politique, quitte à... Pourquoi pas?
Non. J'ai réussi à garder mon honneur jusqu'ici. Je ferai pas cette connerie.
Voilà pour ce petit clin d'œil de l'antenne. C'était en 2013. Guy Bedos face aux auditeurs d'Europe 1. Sa mort jeudi à 85 ans a été annoncée par ses enfants, Nicolas et Victoria Bedos. Elle intervient quelques jours après la disparition d'un de ses amis très chers, Jean-Loup Dabadie. Et bien, pour conjuguer ces deux talents ce soir, pour vous, un extrait d'un sketch écrit par Dabadie pour Guy Bedos. Saint-Tropez, c'est trop snob. Écoutez.
Alors, l'été dernier, je suis retourné à Saint-Tropez, je n'avais pas mis les pieds depuis des années. Dites, j'ai rêvé. Saint-Tropez, c'est devenu trop, non? Je suis sûr, c'est trop. Écoutez, je vous donne un exemple. Le dimanche, en vacances, il m'arrive d'aller à la messe. Voilà. C'est comme ça, je peux m'expliquer, ça m'intéresse. C'est bon pour le stress. ça fait plaisir à ma vieille folle de mère. Si elle était juive ou musulmane, j'irai à la synagogue ou à la mosquée. Mais voilà, jusqu'à nouvel ordre, elle est catho. J'en ai marre des histoires. Je vais à la messe. Bon, alors je me pointe à l'église de Saint-Tropez, le dernier dimanche d'août. Fermé. Tu vois un panneau, closed. Je me dis, tiens, ils font quand même pas la semaine anglaise. Alors quand même, je frappe à la porte. Qu'est-ce qui s'ouvre? Un Judas. Déjà, je dis un Judas à l'église. Enfin bon, je vois le curé à travers, il me dit c'est privé. Attendez, c'est trop, non? C'est privé. Alors je dis, je suis un ami d'Eddy Barclay. Ah bon, entrez, vous êtes combien? Vous rendez compte à l'église? Alors j'entre et je dis au curé, qu'est-ce qui se passe? Il me dit rien, c'est un truc. Les gens n'allaient plus à la messe. Depuis qu'on fait club, on est bourré. En effet, il y avait du monde. Il me dit, il doit me rester à matelas sous le vitrail de Saint-Joseph, vous allez le soigner jusqu'à 4 heures. Je dis, mais je viens pour la messe, écoutez, c'est dingue tout ça. Il me dit, oh, la messe, doucement. Il y a d'abord Pascal Obispo, les natives, Johnny qui nous a fait un prix, et puis on termine sur la messe. Il me dit, vous communiez parce qu'il faut commander au début. Je dis, oui. Il me dit, comment je vous la fais, votre hostie, nature ou aux herbes de Provence? Mais c'est trop, non? Alors je dis, et l'église est pleine tous les jours? Il me dit, c'est-à-dire qu'on a eu un début d'août très très calme jusqu'au 15, et puis avec les fêtes, on a bien travaillé. Beaucoup de Parisiens. Alors bon, j'ai gagné ma place en enjambant les fidèles. Il y avait Ophélie Winter, abîmée dans la prière, à genoux à côté de son whisky coca. Carla Bruni et Thierry Ardisson. Ardisson, moi je l'écris avec un C sans cédille. Alors bon, la messe, bien, très bien. Une messe chantée, à un moment, le curé se retourne, il me dit, sur les paroles et une musique de Didier Barbelivien, Tantum Ergo, un tabac. Le public ne voulait plus le lâcher. Il faisait, item, isa est, item, isa est. Et tout le monde, mon père, mon père, mon père. Alors après, je suis allé le voir dans sa loge, à la sacristie. Il était en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est l'émotion à cause du guide. Je dis, quel guide? Il me dit, je le savais pas, je l'ai acheté ce matin, on a une étoile dans le Michelin. Non, sans rien, ça trop, c'est trop, non? Trop.
Voilà les talents de Guy Bedos et de Jean-Loup Dabadie réunis. Merci messieurs, on vous embrasse au paradis. Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard.
Et voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Dussault.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Place à la détente ce week-end, tous les parcs et jardins de France sont rouverts. Une étape avant la réouverture mardi des cafés et restaurants. Et en parallèle, le parc Astérix annonce sa réouverture le 15 juin avec des mesures sanitaires exceptionnelles. Importante mobilisation contre le plan d'économie de Renault. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale entre l'usine de Maubeuge dans le Nord et l'hôtel de ville de la commune. Flambée de violence aux États-Unis, les émeutes ont gagné la nuit dernière plusieurs grandes villes du pays, dont Washington. Une vague de colère après la mort de George Floyd, un noir américain de 46 ans, lors de son interpellation par un policier. La sécurité routière pointe des premiers chiffres alarmants après le déconfinement. Les grands excès de vitesse de plus de 50 km à l'heure ont bondi de 15% et les accidents mortels repartent à la hausse. Un front républicain à Perpignan pour le second tour des municipales après le candidat LREM. C'est la candidate écologiste arrivée en troisième position qui retire sa candidature et ce afin de faire barrage au Rassemblement national. Louis Alliot qui est opposé au maire sortant LR Jean-Marc Pujol. Après une tentative arrêtée à la dernière minute mercredi en raison de la mauvaise météo, SpaceX va retenter de lancer son premier vol habité. Il est prévu à 21h22 heure française si le temps le permet.
Merci Sophie, à tout à l'heure pour le journal de 19h sur Europe 1. Petit point sur un programme ensoleillé du week-end prolongé. Valérie Darmon, on vous écoute pour la météo.
Eh bien dimanche, donc demain, très beau temps toujours, sauf des Pyrénées aux Alpes jusqu'à la Corse où la tendance est à l'orage surtout l'après-midi et aux nuages le matin. Pour le reste, nous sommes et nous restons au soleil. Lundi 1er juin, le temps restera sec et bien ensoleillé au nord, avec en plus un vent de nord-est qui va faiblir et qui va permettre aux températures de remonter un petit peu. Au sud, l'évolution orageuse sera toujours présente, notamment près des reliefs, dans une ambiance très lourde. Elle sera même un petit peu plus marquée que ces derniers jours et les températures seront légèrement en hausse entre 21 à Dunkerque et 32 par exemple à Mont-de-Marsan.
Valérie Darmon pour la météo que l'on retrouvera à la fin du journal de 19h.
Allez, on refait l'actu sur Europe 1. Depuis mercredi et par décret, l'utilisation de la chloroquine pour traiter les malades du Covid-19 est suspendue en France, Wendy.
Oui, Marlène, et pour revenir notamment sur ce débat sanitaire et scientifique, j'accueille ce soir en studio Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Les auditeurs, pas plus que moi, ne sont scientifiques et il faut avouer que ces débats, voire ces querelles, nous ont dépassés. En quoi pour vous la suspension de ce traitement à la chloroquine est problématique, ou non d'ailleurs, après plusieurs avis scientifiques défavorable, Philippe Juvin.
Écoutez, ça fait maintenant 3 mois qu'on ne parle que de ça, et ça fait 3 mois qu'on demande qu'il y ait une étude bien menée avec un groupe témoin pour prouver que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine ont des effets positifs sur les patients. On n'a toujours pas cette étude. En revanche, l'étude du Lancet, quels que soient ses défauts, il y en a, montre une surmortalité. Et donc, principe de précaution oblige, il est logique. Quand vous avez un médicament qui semble avoir une surmortalité et qui en même temps n'a pas fait ses preuves, eh bien de ne pas le prescrire, en tout cas pour les patients hospitalisés, puisque l'étude du Lancet a été faite sur des patients hospitalisés. Et pas sur des patients, par exemple, en prévention, ce qui pourrait être un autre sujet.
Oui, comme Donald Trump s'est exprimé sur la question, la molécule pouvait être utilisée jusqu'à présent, jusqu'à mercredi, par dérogation, à titre compassionnel, dans le cadre d'essais cliniques aussi. Certaines familles, certains patients, vous l'ont-ils demandé en service de réanimation à Pompidou ?
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé en réanimation, dans les services également d'hospitalisation classique. L'hydroxychloroquine a été globalement prescrite dans mon hôpital dans le cadre d'essais cliniques et quelques patients ont pu la recevoir quand Olivier Véran avait débloqué la prescription, quand il le demandait. Mais toujours, il y avait une explication avec le patient lui-même, sa famille, pour lui expliquer les avantages et les inconvénients, les avantages putatifs et les inconvénients certains. Quelques-uns toutefois ont souhaité en avoir et dans ces cas-là, ils l'ont eu. Mais ça a été relativement exceptionnel.
Vous êtes de ceux en tout cas qui dépassionnent ce débat, qui souhaitent passer à autre chose maintenant que l'épidémie se stabilise ou que le nombre de réanimations en tout cas n'augmente pas.
En fait, c'est normal d'abord, il faut comprendre, c'est normal qu'en matière de scientifiques, nous ayons des débats. Il y a toujours un débat. Vous savez, le philosophe Alain disait que quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Donc c'est normal et c'est sain. C'est grâce à la dispute intellectuelle que les choses avancent. Mais il y a un moment où il ne faut pas faire de cette dispute intellectuelle une discussion quasi idéologique. On a l'impression qu'il y a le camp des pour et le camp des contre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la science. On fait de la science en échangeant des arguments. Et aujourd'hui, moi, je n'avais pas
d'a priori. Et pas à coup d'interview,
pas à coup d'excommunication. Ouais. On ne s'excommunie pas. On discute, on débat. Et éventuellement, on se range à l'avis de quelqu'un qui a un avis différent de vous. Mais on n'excommunie pas. Et cette histoire est folle.
Alors que la course au vaccin est évidemment son plein, un vaccin qui interviendra peut-être d'ici 18 mois, voire 2 ans. Alors que nous parlions il y a quelques instants, je ne sais pas si vous aviez pu être à l'écoute, Philippe Juvin, d'un traitement en essai aussi à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, l'anakinra, qui est déjà prescrit pour d'autres maladies et qui semble donner des résultats encourageants. Cela fait partie des pistes que vous aussi, vous pouvez étudier à l'hôpital Pompidou.
Il y a beaucoup d'essais cliniques en cours actuellement, avec des tas de médicaments différents. Mais on en est encore une fois au balbutiement. Et ce qui me gêne dans ces débats désormais radiophoniques ou médiatiques, c'est qu'on annonce dans l'enceinte médiatique qu'un médicament est testé. Mais il y a toujours des médicaments testés pour toutes les maladies. Mais ce n'est pas une étude qui fait le printemps, vous voyez-vous. Et donc il faut du recul. Le temps scientifique n'est pas le temps médiatique, il faut bien le comprendre.
Oui, évidemment, tout ça a été souligné, extrapolé par l'ampleur de la crise. Alors passons à autre chose, Philippe Juvin.
J'ajoute qu'il peut y avoir dans l'esprit des gens de grandes déceptions quand vous leur faites miroiter que ça y est, on a le médicament. Eh bien, il y a des gens espèrent.
Ça rassure.
Et c'est vrai que quand on a une épidémie nouvelle, sans médicament, sans vaccin, on cherche une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est à nous les scientifiques d'expliquer qu'elle n'est pas automatique et qu'il faut prendre les choses avec prudence. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement du coronavirus pour dire les choses clairement.
Très bien, merci de l'expliquer sereinement aussi sur l'antenne d'Europe 1. Philippe Juvin, vous qui avez été au cœur de la crise assez critique, soulignant que depuis le début, l'État avait montré son incapacité à préparer la lutte contre l'épidémie et que si nous en sortions progressivement, c'était grâce aux Français. À l'époque et aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que c'était le médecin d'abord ou le politique d'opposition qui parlait, Philippe Juvin ?
Non, moi d'abord, j'ai toujours, quand je me suis exprimé dans cette crise, j'ai toujours donné de l'information aux Français qui en étaient dépourvus. parce que je crois extrêmement important que quand le pays vit une crise comme ça, les gens soient informés. S'ils ne sont pas informés, ils n'ont pas confiance. Mmh. Et quand ils n'ont pas confiance, ils vont écouter des fake news ou des gourous où ils paniquent. Et donc, il fallait informer, c'est ce que j'ai fait, moi, durant 3 mois. Alors, c'est vrai, cette information, elle a pointé des dysfonctionnements majeurs. On a manqué de tout. On a manqué de masques, de tests, de médicaments, de surblouses, de lits de réanimation. Et ça a été majeur. Donc, il fallait le dire. Ne pas le dire serait, quelle que soit votre étiquette politique, ne pas le dire aurait été une faute. Mais quand le président de la République, par exemple, a décidé de confiner, alors même que je suis un membre de l'opposition, vous l'avez fait remarquer, vous avez raison, j'ai applaudi. Et donc, je suis un homme libre. Je dis librement quand les choses sont bien faites et je critique sans esprit de recul quand les choses sont mal faites. Et c'est vrai que beaucoup de choses n'ont pas été parfaitement faites durant cette crise.
Mais vous soulignez, je le répète, le civisme des Français, civisme un peu aléatoire. Il vous arrive, je pense, de circuler sur les trottoirs et vous voyez le nombre de masques jetés dans les rues de Paris. Entre autres, cela doit parfois décourager le scientifique, le médecin que vous êtes, Philippe.
Non, mais il faut aussi remarquer une chose. Comme nous étions dépourvus de tout, nous avons dû confiner durement et brutalement. On ne pouvait pas faire autrement et le gouvernement, encore une fois, a eu raison de le faire. Ça a sauvé des vies. Mais d'autres pays qui avaient, par exemple, une capacité à faire des tests massivement, je pense à l'Allemagne, a confiné beaucoup moins fortement. Les usines allemandes ont continué à fonctionner beaucoup plus que les usines françaises, par exemple, pour donner cet exemple. Donc ça signifie que le confinement dur a été la conséquence de notre impréparation. Et le confinement dur, il n'y a qu'une personne qui le portait, c'était le français. Mmh. Et le gouvernement, au fond, n'a fait que décréter ce confinement, mais le seul effort important ont été fournis par les Français, c'est ça que je veux dire. Après, sont arrivés des tests en petit nombre, des masques en petit nombre, et beaucoup de choses chaque fois en petit nombre. L'effort, encore une fois, on le doit en français. Si on est arrivé à vaincre cette crise, c'est parce que les Français se sont mobilisés.
Philippe Juvin, je voudrais terminer en donnant la parole cette fois au maire réélu de la Garenne-Colombes il y a quelques jours. Donc, alors que le déconfinement s'accélère et que cette vie reprend doucement, cette vie normale, est-ce que le pouvoir conféré au maire dans cette sortie de crise vous paraît optimal ?
Non, il n'est pas optimal et pourtant il est absolument nécessaire. Cette crise, elle nous a rappelé la vertu des circuits courts de décision. Quand l'État commande des masques, les masques n'arrivent pas. Quand la mairie ou le département ou la région commande des masques, le masque arrive. Quand le ministre de la Santé décide une politique de santé, elle a du mal à se mettre en œuvre. Quand cette politique est mise en œuvre et décidée au niveau local, au niveau de l'hôpital, elle est efficace. La vertu des circuits courts a montré tout le dysfonctionnement de notre société institutionnelle, hyper administrée, avec des échelles d'administration qui se multiplient, qui se contredisent, des ordres, des sous-chefs, des contre-ordres, des petits chefs. Tous ces gens sont inefficaces, ont failli nous faire perdre la guerre. Et quand la guerre a pu être gagnée, elle l'a été justement parce que nous avons eu des structures de proximité, dont les mairies, qui ont joué leur rôle. Je pense que le fameux Ségur de la santé doit aussi mettre ça sur la table. La France est suradministrée et cette suradministration nous a coûté très cher.
Eh bien, vous tiendrez la parole aussi dans ce débat. Ségur de la santé, Philippe Juvin, professeur et chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Merci beaucoup de votre présence en studio pour nous éclairer encore ce soir. Merci.
Chaque semaine, Wany Bouchard, depuis le début du confinement, un ou une artiste nous parle du monde endeuillé de la culture. Et cette semaine,
eh bien, c'est Claude Lelouch qui vient de réaliser le premier film du déconfinement et qui, à 82 ans, fourmille encore de projets et qui nous rejoint en duplex depuis sa Normandie. À tout de suite.
18h43, nous sommes avec Wany Bouchard. C'est notre grand journal du soir sur Europe 1. Comme chaque semaine, un artiste vient exposer son regard sur notre époque, Wany.
Eh bien, vous parlez de regard, c'est peu dire, avec notre invité ce soir qui scrute les hommes, les femmes et qui filme la danse humaine avec toujours le même enthousiasme. Bonsoir Claude Lelouch.
Bonjour, bonsoir, comme vous voulez.
Vous qui avez probablement, Claude, réalisé le premier film du déconfinement, c'était il y a quelques jours maintenant, à Monaco, en suivant des Ferrari dans les rues de la ville. Alors racontez-nous d'abord ce projet, était-ce finalement un remake de votre traversée de Paris il y a quelques années ?
Disons que dans ma vie, le hasard a toujours eu du talent. Et c'est lui qui a guidé mes pas, et donc il y a une dizaine de jours, la principauté m'a appelé pour me demander étant donné que le Grand Prix était annulé, pour la raison que vous connaissez, et ils m'ont dit, voilà, écoutez, ça serait formidable si le Grand Prix ait lieu uniquement avec vous et que vous recommenciez votre traversée de Paris, mais dans la traversée de Monaco, et en plus, on est prêt à mettre à votre disposition Charles Leclerc, un des meilleurs pilotes du monde aujourd'hui. Les gens de Ferrari sont d'accord pour prêter, et nous, on est prêt à vous bloquer le circuit pendant 2 heures. Voilà, donc j'ai trouvé le défi formidable, et ça m'a amusé d'aller faire joujou à Monaco, comme ça, pendant 2 jours. Voilà.
À combien de kilomètres heure, Claude Lelouch?
Mais écoutez, comme le circuit était fermé, on a pu faire des pointes à 250, entre 250 et 300, voilà.
Bah pour un homme en mouvement et qui aime la vitesse, c'est parfait.
C'est vrai que quand je vais vite, j'ai le sentiment de faire un peu plus de choses. Voilà, et comme j'ai envie de faire plein de choses, je prends du plaisir à faire des choses. Voilà, donc la vitesse fait partie de mon ADN.
De fait, comment vous avez vécu ces 3 derniers mois, un peu mis sur pause, justement?
Je vais vous faire une confidence. J'ai eu le sentiment de prendre mes premières vacances. Enfin, j'étais un homme de week-end jusqu'à maintenant. Je faisais 2 jours, 3 jours à un pont, vous voyez, mais j'étais jamais resté au même endroit. Plus de 4-5 jours, voilà. Et donc, j'ai, pour la première fois de ma vie, pris des vacances. Et je comprends maintenant pourquoi il y a des gens qui aiment bien ça. Voilà.
Vous auriez pris goût aux vacances, Claude Lelouch, en cette année 2020. Vous dites d'ailleurs que ces années en 20, il se passe toujours beaucoup de choses. Eh bien, vous ne vous étiez pas trompé.
Si on regarde toutes les années 20 de tous les siècles, ce sont des années folles. Quand le siècle a 20 ans... Eh bien, il se comporte comme quelqu'un qui a 20 ans, et il va dans tous les sens, il tente plein de choses. D'ailleurs, ça sera un des grands thèmes de mon prochain film. J'avais l'intention de filmer l'année 20, parce que je ressentais qu'il allait se passer des choses. Et j'avoue que depuis le début de l'année, entre les gilets jaunes, les grèves et le virus, je suis surgâté. Voilà. Donc, je suis en train de raconter l'histoire de 3 potes, de 3 copains qui traversent cette année 20. De la même façon que l'aventure, c'est l'aventure, était ma réponse à mai 68, je pense que le film que je prépare sera un petit peu ma façon de voir ce monde incroyable qui devrait être positif à l'arrivée. Je pense que toutes les grandes catastrophes, tout ce qui est arrivé dans le monde a toujours été bénéfique. Je crois plus que personne à la vertu des impondérables. D'ailleurs, c'est le titre de mon dernier film qui va passer aussi le 13 juin sur Canal. Et cette vertu des impondérables, depuis ma naissance, je suis habitué. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai totalement raté d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la meilleure école du monde, c'est l'échec. C'est la plus grande université du monde et on avait besoin d'un petit coup de pied au cul pour réapprécier les choses toutes simples. Nous étions devenus des enfants gâtés. Ça va être formidable de retourner à une terrasse de café, d'aller au cinéma, même pour voir un navet, vous voyez. Et en plus, c'est la première fois que un virus touche le monde entier. Donc, le monde entier, pour une fois, parle la même langue. Et donc, si on parle la même langue, on va peut-être enfin arriver à se comprendre.
C'est bien dit, Claude Lelouch. Vous évoquez votre film qui sera diffusé donc le 13 juin sur Canal+, La vertu des impondérables, entièrement tourné au iPhone, dont vous avez dit à l'époque pendant le tournage que vous appréciez sa fluidité parce qu'il était ce petit outil, la caméra de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qui vous plaisait aussi à diffuser comme message, au fond, avec ce long métrage?
Vous savez, Alexandre Astruc avait parlé dans les années 60 de la fameuse caméra stylo. Voilà. Et cette caméra stylo, ça y est, elle existe. Cette petite machine que tout le monde a dans sa poche est performante d'une façon absolument incroyable. Aujourd'hui, tous les grands événements du monde sont filmés par des hommes et des femmes qui sont dans la rue et qui nous envoie des informations que des reporters n'auraient jamais pu faire, puisque l'art du reportage, c'est d'être au bon moment et au bon endroit. Voilà. Donc aujourd'hui, l'histoire du monde s'écrit avec ces 7 milliards de reporters potentiels qui peuvent tout filmer. Cette petite caméra, elle m'a rajeuni. J'ai retrouvé mes 18 ans, vous voyez, j'ai retrouvé une liberté, et elle peut aller se nicher partout, on peut dégainer à tout moment, c'est comme dans les westerns, vous voyez, ces fameux revolvers qui tirent plus vite que les
curieuse
autres.
Et discrète. Voilà. Bien, écoutez, Claude Lelouch, voilà l'enthousiasme dont je parlais à 82 ans. Je vous ai demandé de choisir un texte aussi pour les auditeurs d'Europe 1 à partager ce soir. Quel est votre choix, Claude Lelouch?
C'est un choix qui est un peu malhonnête, parce qu'il s'agit du livre de ma femme qui s'appelle « Changer l'eau des fleurs », qui a été écrit par Valérie.
Mais qui est un grand succès, je dois le dire, à travers la France.
Hein, ben oui, qui est un immense succès, qui est peut-être aujourd'hui peut-être le grand succès de l'année. Et c'est tout à fait mérité. Et je trouve qu'elle écrit comme un cinéaste. Je trouve que quand je lis « Changer les fleurs », j'ai le sentiment d'être dans une salle de cinéma. Voilà. Alors je suis ravi de vous faire partager ce petit texte.
Eh bien, on vous écoute, Claude Lelouch. Voilà les premières lignes.
« Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux. Ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leurs enfants, le bonheur. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste. Ils ne sont pas lèche-cul, ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublimes, drôles, accros, radins, souriants, malins, violents, amoureux, railleurs, hypocrites, doux, durs, mous, méchants, menteurs, voleurs, joueurs, courageux, feignants, croyants, vicelards, optimistes. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pin ou acajou.
Voilà. Oui, et c'est une métaphore de ce que nous vivons aussi, hein, de ces relations humaines qui ont été peut-être un peu rebattues, un peu repensées ces derniers jours, mais qui sont si essentielles.
Non, mais vous savez, en ce moment, les gens sont en train de se redécouvrir. Ils se sont redécouverts dans leurs immeubles, ils se redécouvrent dans la rue. C'est comme s'ils avaient droit à une deuxième naissance. Ce virus a fait beaucoup de mal, a rendu des gens très très malheureux, mais pour ceux qui sont passés à travers les gouttes, c'est une chance inespérée de comprendre que le bonheur est gratuit et que c'est le luxe qui est très cher. Voilà.
Et je vous remercie aussi pour les mots partagés de votre épouse, écrivaine, « Changer l'eau des fleurs », dont vous nous avez lu quelques mots, préambule de ce texte qui dit beaucoup aussi de l'homme. Merci beaucoup Claude Lelouch avec vos 1000 projets. Le 13 juin, découvrir sur Canal+, eh bien, votre long métrage filmé à l'iPhone, entre autres. Et puis on attend « L'amour, c'est mieux que la vie », votre nouveau film. En attendant la réouverture des cinémas, le 22 juin, vous le savez. Merci beaucoup Claude Lelouch d'avoir pris le temps ce soir sur Europe 1.
Au revoir.
Winnie Boucher, vous êtes de retour dans les studios d'Europe 1, mais Fabien Lecoeuvre aussi.
Et oui, la bonne nouvelle et à la bonne heure. Salut Fabien,
bonsoir. Bonsoir à tous.
Et vous nous entraînez dans les 40 ans de carrière d'un groupe pop-rock.
Exactement, choc. Indochine.
A tout de suite.
18h-20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Wanny Bouchard, et place maintenant à la musique, hein, notre rendez-vous, une chanson dans la tête au cœur de ce grand journal.
Et oui, notre spécialiste de la chanson française est donc en studio, Fabien Lecoeuvre, a des nouvelles toutes fraîches du groupe Indochine qui a tant d'admirateurs en France, avec ses 40 ans de carrière, Fabien.
Absolument, Wanny, puisque les membres du groupe ont annoncé mardi dernier tous les événements prévus pour leurs 40 ans de carrière qu'ils fêteront le 10 mai 2021. Mmh. Alors tout d'abord, il y a la sortie d'un nouveau single intitulé Nos Célébrations, que l'on peut entendre depuis quelques jours, on va dire, et puis également deux albums anniversaires regroupant les plus grands titres en version remasterisée ou piano-voix, et ensuite un film rétrospectif de leur carrière, et enfin une tournée des stades baptisée Central Tour, qui débutera le samedi 29 mai 2021 à Bordeaux, avant le Stade Vélodrome de Marseille le 5 juin, le Stade de France à Paris le 19 juin, et oui, le Groupama Stadium de Lyon le 26 juin, et le Stade Pierre-Mauroy à Lille le samedi 3 juillet 2021. Alors, Indochine a annoncé d'ailleurs qu'un quota de places serait offert à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé la France à traverser la pandémie du Covid-19, à savoir le personnel soignant, les routiers et les caissières.
Ça, c'est un beau geste. Belle l'occasion action. Pour vous de nous parler de ce groupe qui a vendu quand même 13 millions de disques. Hein.
Et oui, Wendy, et qui a été le premier groupe de rock français à remplir Bercy. Mmh. Souvenez-vous, c'était en 2003 et le Stade de France en 2010. Allez, musique.
Titre aux origines d'Indochine, il y a donc 40 ans, nous sommes en 1980, Fabien.
C'est vrai, tout commence en septembre 1980 avec une annonce dans Rock and Folk. Un groupe parisien baptisé Les Espions cherche un bassiste et un chanteur. Alors Nicolas Sirkis et Dominique Nicolas répondent à l'annonce et vont être recrutés. Seulement, au bout de quelques temps, ils ne s'entendent pas vraiment avec les autres membres de ce groupe. Ils décident alors de quitter Les Espions et de créer leur propre groupe Indochine, et on est le 10 mai 1981. Quelques mois après, le 28 septembre, ils donnent leur premier concert dans un club parisien au Rose Bonbon. Vous savez, c'était situé dans les sous-sols de l'Olympia.
Dans les sous-sols, hein.
Et oui, il y avait une boîte là.
Ouais.
Et ce jour-là, ils sont repérés et signent leur premier contrat avec le label Clémence Melody. Et savez-vous, Wendy, qui était le créateur de cette maison de disques, à votre avis?
Une autre génération, en tout cas.
Oui, oui. Précédente. Gérard Lenormand, ah, c'est le premier incroyable. Qui a signé, finalement, qui a cru en Indochine.
Bravo. Et un premier succès, L'Aventurier. Écoutez.
Dans
Avril 1982, Fabien Lecoeur.
C'est un tube énorme. Et le frère jumeau de Nicolas Sertier, justement, Stéphane, rejoint le groupe durant cette période. La notoriété d'Indochine prend de plus en plus d'ampleur, évidemment. Ils font beaucoup de premières parties avant d'enregistrer leur premier album, qui sort donc le 15 novembre 1982, et qui a pour titre L'Aventurier, qui est d'ailleurs le titre aussi d'une des chansons de l'album. Alors, dans ce succès, Nicolas Sertier, qui a écrit le texte, il fait référence au livre d'aventure du romancier belge Henri Verne, sorti chez Marabout Junior dans les années 50.
Et qu'il lisait peut-être.
Oui. Exactement, puisque Nicolas Sertier avait découvert ses livres à l'âge de 12 ans, quand il était en pension à Uccle, en Belgique. Mmh. Aussi, lorsqu'en décembre 1981, il écrit les paroles de l'aventurier, il ressort de sa bibliothèque tous les Bob Moran, évidemment, qu'il avait ramené de Belgique, et à partir de tous les titres des livres, alors il y avait La Vallée Infernale, il y avait L'Ombre Jaune, il y avait Trafic aux Caraïbes, Le Sultan de Jarawak, et il crée justement une histoire, et il fait, comme vous le dites très justement, la chanson. Et comme à l'époque, Nicolas Sertier avait adoré un autre aventurier de sa génération, c'était Indiana Jones, bien sûr, dont Les Aventuriers de l'Arche Perdue étaient sortis au cinéma le 16 septembre précédent, il a intitulé tout simplement sa chanson L'Aventurier. Alors ce titre, vous le savez Wendy, devient incontestablement l'un des succès de l'été 1983 et se retrouve numéro 1 au hit parade à Europe 1 au mois d'août 83. Et là, je vais faire une petite entorse parce que notre confrère Frédéric Dabi, de l'IFOP, justement, que l'on va recevoir tout à l'heure, eh bien, il n'écoutait que cette chanson en colonie de vacances durant l'été 83. Vous allez pouvoir lui en parler.
Ah, c'est drôle, ça. Alors, il y a évidemment ensuite la consécration avec ce titre de 1985. Troisième album du groupe, Fabien Lecoeur.
Et oui, cette chanson écrite par Nicolas Sertier pour le troisième album du groupe est paru le 10 mai 85. C'est le roman de Marguerite Duras, L'Amant, qui lui a inspiré ce titre, on n'en parle jamais assez.
Les années 90 sont un peu plus compliquées, sinueuses, avec un passage à vide pour Indochine.
Exactement, avec le départ de Dominique Nicolas, le principal compositeur du groupe, et la mort soudaine de Stéphane Sertier. Le 27 février, bien sûr, 1999, le groupe retrouve un nouveau souffle en 2002, avec un neuvième album studio, qui a pour titre Paradise, et sur lequel figure, bien sûr, J'ai demandé à la Lune.
J'ai demandé à la Lune, et le soleil ne le sait pas.
J'ai demandé à la Lune un retour gagnant, Fabien Lecoeuf, pour Indochine.
Et oui, une chanson écrite surtout et composée par Michael Furnon, c'est du groupe Mickey 3D. Ce deuxième extrait d'album est paru le 8 avril 2002. Il connaît un immense succès et se vend à plus d'un million d'exemplaires. Alors évidemment, dignement, je crois que les 40 ans seront bien célébrés du groupe Indochine. Nous réserve encore de belles surprises, je suis sûr, dans les tournées et les stades. Le plus grand écran du monde sur une scène centrale permettant une grande proximité avec le public. Rendez-vous donc le samedi 29 mai à Bordeaux 2021.
Pour le début de cette tournée Central Tour, Indochine à l'honneur pour ses 40 ans de carrière. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. On se retrouve dans un instant avec le journal de Sophie Tussaud. Pour 19h, on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1, Marlène.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le grand journal du soir avec Wendy Bouchard.
Et comme il est 19h, c'est le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Merci d'avoir choisi Europe 1, 19h.
Et on est réveillé par les oiseaux et on les enviait d'avoir cette liberté que nous n'avions plus. On échange sur notre vie de confiné, enfin d'ex-confiné.
Nouvelle bouffée d'air pour les citadins et le bonheur retrouvé d'un peu de campagne dans la ville. Tous les parcs et jardins de France sont rouverts aujourd'hui.
Les États-Unis s'embrasent après la mort d'un Afro-Américain étouffé lors de son interpellation. Les émeutes se sont étendues à plusieurs grandes villes du pays.
Quand je vois ce qui s'est passé dans les rues d'Atlanta, ce n'est pas une manifestation. Ceci, c'est le chaos. Même quand Martin Luther King a été assassiné, on n'a pas fait ça à notre ville.
Les Français se relâchent au volant après le déconfinement. La sécurité routière pointe de premiers chiffres alarmants avec une hausse importante des grands excès de vitesse.
Il faut vraiment faire extrêmement attention à la vitesse qu'on adopte et respecter ses limites de vitesse.
Et puis SpaceX retient son souffle et pourrait rentrer ce soir dans l'histoire de l'aventure spatiale. La société d'Elon Musk va retenter de lancer son premier vol habité, mais si le temps le permet. Nous sommes à l'écoute de ce monde qui change et jusqu'à 20h sur Europe.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et symbole fort du déconfinement en Paris aujourd'hui, Sophie Tussaud, la réouverture des grands magasins.
Oui, cela faisait 3 mois qu'elles n'avaient plus rouvert leurs portes. Les galeries Lafayette ont à nouveau pu accueillir des clients aujourd'hui, des Parisiens qui attendaient ce moment impatiemment, Carole Ferry.
Depuis 125 ans, depuis l'ouverture des Galeries Lafayette, jamais le magasin n'était resté fermé aussi longtemps. Alors c'est sous les applaudissements que les clients et le personnel se sont retrouvés ce matin. Certains sont même arrivés dès 8h30 le matin dans la file d'attente. Les sourires, cachés derrière les masques, ne se voient pas, mais ils s'entendent.
Je suis très heureuse.
C'est le jour d'ouverture et pour moi, ça compte beaucoup. J'attendais ça avec impatience parce que ça m'a manqué tous ces mois sans magasin.
Ça fait du bien, ça fait du bien.
Le shopping, c'est un soulagement, ça permet de décompresser.
C'est une thérapie, on va dire, hein, mais qui coûte cher un peu.
Alors bien sûr, il faut faire avec de nouvelles règles, des portes pour l'entrée, d'autres pour la sortie, des marquages au sol pour le sens de circulation et un rituel dans les cabines d'essayage, selon le directeur des Galeries Lafayette Haussmann, Alexandre Liot.
Les clients qui vont en cabine déjà doivent porter un masque, doivent mettre du gel hydroalcoolique sur les mains avant de prendre les vêtements. Ensuite, essayer les produits et si le client ne souhaite pas le prendre, le produit est isolé, mis de côté pendant 24 heures avant d'être mis à la vente.
Mais la vie reprendra vraiment aux Galeries Lafayette quand les touristes étrangers seront également de retour. Ils représentent plus de 50% du chiffre d'affaires.
Carole Ferry. Autre événement aujourd'hui en France, la réouverture des parcs et jardins partout dans le pays. L'occasion pour les Parisiens qui n'ont pas quitté l'Île-de-France depuis de longues semaines de renouer avec un peu de nature.
Je croyais que le parc allait ouvrir après le 2 juin. Donc j'étais agréablement surpris ce matin, après mon jogging, que le parc était ouvert. Tout de suite, je me suis dit, tiens, je vais annoncer la nouvelle aux enfants. J'étais très content de retrouver leur parc.
On joue à une bataille d'eau avec mes amis.
On en profite à fond. Profiter de l'herbe, du vent, du soleil, et que les enfants puissent avoir enfin des contacts sociaux. On a la vue sur le parc depuis le 16 mars. Et on est réveillés par les oiseaux et on les enviait d'avoir cette liberté que nous n'avions plus. On échange sur notre vie de confiné, enfin d'ex-confiné. Voilà. Et on n'attend qu'une chose, c'est le 2 juin. On aurait aimé que ce soit des week-ends pour partir à la plage et voir surtout nos parents qu'on n'a pas vus depuis le 16 mars, qui sont à plus de 100 km.
Et mardi, ce sera au tour des cafés et restaurants de rouvrir avec des mesures particulières en région parisienne qui restent classées en orange. Les plages et les lacs seront également de nouveau accessibles, progressivement à partir du 2 juin. Importante mobilisation contre le plan d'économie de Renault. 15 000 emplois supprimés dans le monde, dont 4 600 en France. Des milliers de personnes ont manifesté à l'appel de l'intersyndicale entre l'usine de Maubeuge dans le Nord et l'hôtel de ville de la commune. Le site qui emploie 2 100 personnes est à l'arrêt depuis hier matin. Le constructeur automobile envisage des transferts de production.
À l'étranger, cette interrogation, y aura-t-il une cinquième nuit d'émeute aux États-Unis? C'est la question évidemment, alors que le pays s'embrase après la mort de George Floyd.
Et cet homme noir américain de 46 ans est décédé lundi lors de son interpellation, après qu'un policier a maintenu son genou sur son cou durant de longues minutes. Le policier a été inculpé pour homicide involontaire, mais la colère n'est pas redescendue et la flambée de violence s'est propagée à d'autres grandes villes du pays, Mathieu Bock.
Oui, à Washington, des manifestants ont monté des barricades devant la Maison-Blanche en brandissant des panneaux où l'on pouvait lire « Arrêtez de nous tuer ». À Denver et à New York, les habitants ont bravé le confinement et affronté les forces de l'ordre, dont quelques véhicules ont été incendiés. À Phoenix, des manifestants ont bloqué une autoroute. À Dallas, au Texas, là aussi, il y a eu des affrontements. À Atlanta, les manifestants ont mis le feu à des voitures de police et ont saccagé les locaux de la chaîne CNN. La maire de la ville, Keisha Lance Bottoms, elle-même noire, émue aux larmes, a dénoncé ces violences, même si elle soutient la cause des manifestants.
Avant toute chose, je suis une mère de 4 enfants noirs. Et quand je vois le meurtre de George Floyd, j'ai mal comme une mère aurait mal. Et quand j'ai entendu qu'il y aurait des émeutes à Atlanta, j'ai fait ce qu'une mère aurait fait. J'ai appelé mon fils de 18 ans et je lui ai demandé « Où es-tu ?» Quand je vois ce qui s'est passé dans les rues d'Atlanta, ce n'est pas une manifestation. Ceci, c'est le chaos. Même quand Martin Luther King a été assassiné, on n'a pas fait ça à notre ville.
À Minneapolis, là où tout a commencé, 1700 soldats de la garde nationale ont été appelés en renfort pour faire respecter le couvre-feu. C'est la première fois en 164 ans d'existence que la garde nationale du Minnesota est ainsi pleinement mobilisée.
Mathieu Bock. Après la décision de Washington de rompre avec l'OMS, l'Union européenne appelle les États-Unis à revoir leur position. Hier, Donald Trump a annoncé l'arrêt du financement américain.
Un retour en France avec l'Île-de-France, désormais classée orange, Sophie Tussaud, si elle n'est pas passée au vert, c'est notamment en raison d'un seul département.
Oui, le Val-d'Oise qui a des indicateurs et un taux de positivité supérieur à ceux des départements voisins. Il est même le seul en rouge en métropole sur la carte épidémiologique. Marie-Christine Cavecchi est la présidente du département. Pour elle, cette couleur rouge est un non-sens et elle vit ce classement comme une injustice.
On est montré du doigt, on est le vilain petit canard, si vous voulez. Et un petit canard rouge, alors c'est impensable. Quoi. Écoutez, à mercredi soir, donc là, cette semaine, hein, mercredi soir, il y avait eu 224 tests. Sur 224 tests, 3 personnes marquées positives. Sur toute l'Île-de-France, il y a 6000 personnes qui sont en réanimation. Il y en a 28 dans le Val-d'Oise, ou 29. Donc, on se pose des questions quand même. Donc, je m'inquiète énormément pour la suite. C'est-à-dire qu'on a un département qui est à 2/3 en ruralité. Et donc, les Parisiens viennent en week-end, viennent dans les chambres d'hôtes, viennent dans les gîtes. Et là, vous croyez qu'ils ont envie de venir voir des gens qui seraient peut-être contagieux. Donc, tout le travail qui est du tourisme, qui a envie de reprendre, hein, comme dans toute la France, eh bien, ma foi, aujourd'hui, on se demande à quoi ça va servir. C'est tout à fait désolant pour notre économie.
Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val-d'Oise, au micro européen de Romain Nocquet.
Et à 19h15, il nous rejoint le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, pour revenir sur cette phase 2 du déconfinement, cette différenciation et l'impact aussi des départements dans la relance de l'activité économique. Point négatif du déconfinement, un sérieux relâchement sur les routes, car la sécurité routière pointe aujourd'hui des chiffres alarmants, Sophie.
Les grands excès de vitesse de plus de 50 km à l'heure ont bondi de 15% et les accidents mortels repartent à la hausse. Écoutez David Juillard, adjoint au délégué à la sécurité routière.
Si on prend les très grands excès de vitesse, où les conducteurs dépassent de plus de 50 km/h les vitesses maximales autorisées, on a enregistré une hausse de 15,2% entre la période du 11 au 27 mai de cette année comparée à la même période de 2019. Donc c'est une hausse tout à fait considérable. Et alors sur les excès de vitesse un tout petit peu moins importants, entre 40 et 50 km, on note une augmentation de 27% sur la même période. Nous avons vécu le week-end de l'Ascension, qui est un long week-end, qui est souvent un week-end accidentogène, où il y a beaucoup de circulation, même si les conditions étaient encore limitées le week-end dernier, comme elles le sont encore ce week-end. Et puis il y a la météo qui joue, une météo favorable a toujours tendance à provoquer ce type de comportement ou inciter peut-être les automobilistes à être un peu moins prudents. Il faut vraiment faire extrêmement attention à la vitesse qu'on adopte et respecter ces limites de vitesse.
David Juillard, adjoint au délégué à la sécurité routière avec Sophie Echenne.
Et puis 3 jours après avoir tout stoppé à la dernière minute en raison de la mauvaise météo, eh bien SpaceX va retenter de lancer son vol habité aujourd'hui.
Oui, si tout va bien, les deux astronautes décolleront à bord de la capsule Dragon à 21h22 heure française. Rien n'est encore définitif car si le temps est mauvais, le lancement sera annulé à New York. Loubna Anaki pour Europe 1.
Le compte à rebours est enclenché. Plus que 2 heures et quelques minutes à peu près à attendre. Depuis le Centre spatial Kennedy de Floride, la NASA retransmet en direct les préparatifs pour le lancement très attendu de la fusée Falcon 9. Premier vol spatial habité de SpaceX, premier vol habité à décoller du sol américain depuis 9 ans, c'est dire l'enjeu que cela représente. Depuis 2011, la NASA devait passer par la Russie et ses navettes Soyuz pour un coût de $70 millions pour chaque astronaute envoyé dans l'espace. Le lancement d'aujourd'hui permettrait aux Américains de retrouver à nouveau leur indépendance. Un enjeu aussi pour SpaceX et Elon Musk, devenus en 20 ans des acteurs clés de l'industrie spatiale américaine. Mercredi, la première tentative de lancement avait été annulée à la dernière minute en raison de la météo. Aujourd'hui, les chances sont de 50%. Il y a pas mal de nuages attendus sur la Floride car la saison des ouragans a commencé. Les équipes et les astronautes sont prêts. Nous gardons un œil sur le temps, a tweeté ce matin Elon Musk. Si tout est annulé, 2 autres fenêtres de tir sont prévues demain soir et mardi. Loubna Anaki, New York, Europe 1.
Et nous, on se retrouve, Sophie Tussaud, à 19h30 pour le rappel de l'actualité. Merci. On se projette un petit peu. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution du ciel en ce mois de juin, Valérie Darmon?
Et oui, une idée effectivement avec ce temps chaud et beau qui cède progressivement la place à une masse d'air plus instable avec des averses orageuses toujours plus présentes sur le sud du pays. Mais au nord aussi, les foyers orageux seront présents au fil des jours, plus dispersés, mais on en connaîtra tout de même. Les températures devraient commencer à baisser le week-end prochain pour repasser sous les normales de saison. Il faut dire qu'en ce moment, on est bien au-dessus. Elles repartiront à la hausse à la fin du mois de juin. nous ramenant donc les orages qui vont avec. En fait, le ciel redeviendra humide et frais à partir du 8 juin. Pour le moment, on continue de profiter de ce week-end estival à condition de rester prudent sous les orages des reliefs.
C'était la météo signée Valérie Darmon. Et le Grand Journal se poursuit jusqu'à 20h avec vous, Wendy Bouchard. Terminer le déplacement dans un rayon de 100 km.
Eh oui, bon, liberté recouvrée en France. Une activité qui tente de repartir, aidée notamment par les départements qui s'organisent pour reconstruire les économies locales. On en parle de ce sujet notamment avec Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, notre invité juste après la pause.
19h14, la suite du Grand Journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, vous revenez maintenant sur la phase 2 du déconfinement et sur les enjeux économiques vitaux qui en découlent.
Absolument, et notre invité est en première ligne pour commenter cette situation comme président de l'Assemblée des départements de France, lui-même président du département de la Charente-Maritime. Bonsoir Dominique Bussereau.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Et bienvenue sur Europe 1 pour commenter cette nouvelle phase de déconfinement qui commence donc dans l'essentiel des départements verts dès mardi, le 2 juin, avec la réouverture des collèges, des lycées, des bars, des restaurants. Est-ce une bonne nouvelle pour vous d'abord, Dominique Bussereau ?
C'est une très bonne nouvelle. Je dirais que c'est encore une meilleure nouvelle pour les départements qui étaient en rouge. Je pense au département des Hauts-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est. Mm-hmm. Malheureusement, Paris reste en orange. Là, c'est vraiment un changement formidable, y compris en termes d'image vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs habitants, vis-à-vis de l'extérieur. Pour les autres, on le voit bien ce week-end de Pentecôte, hein, qui est un grand week-end touristique. Il y a quand même beaucoup de monde. Les 100 kilomètres, je ne sais pas s'ils sont véritablement respectés, si d'ailleurs ils sont encore véritablement en vigueur jusqu'à lundi minuit. Il n'empêche que ça change le moral et ça donne du moral parce que le bistrot, le café, le théâtre, l'ouverture future des cinémas, tout ça, ça donne du moral aux Français. Et c'est bon également pour la reprise économique.
Alors vous entendiez il y a quelques instants Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val-d'Oise, qui se positionnait sur cette différenciation, le Val-d'Oise qui reste en rouge, et elle dit vivre ce classement comme une injustice qui repose pour vous quand même sur des données sanitaires qu'il faut prendre en compte, Dominique Bussereau.
Mais j'ai parlé avec ma collègue du Val-d'Oise, je parle avec les autres collègues des départements qui restent en orange. C'est vrai que pour eux c'est difficile à vivre. C'est vrai que dans ces départements c'est plutôt des clusters qu'une épidémie généralisée. Mm-hmm. Et c'est vrai que cette période supplémentaire est très dure à vivre. Donc moi je souhaite que très vite, sans attendre peut-être le 22 juin, si de bonnes nouvelles sanitaires apparaissent, ces départements puissent passer de l'orange au vert, et en particulier le Val-d'Oise puisque vous avez cité cet exemple.
Nous parlons Dominique Bussereau, toujours avec à l'esprit des exigences de précaution sanitaire et des exigences de transparence. Et j'aimerais vous faire réagir à un chiffre terrible que nous avons découvert par voie de presse il y a quelques instants. La mort de 16 pensionnaires dans un EHPAD en Charente-Maritime, l'EHPAD de Tonnet-Charente. C'est un chiffre que vous ne connaissiez pas, Dominique Bussereau, un chiffre qui vous a donc été caché.
C'est en effet moi qui ai commencé à parler publiquement de cette affaire, parce que vos confrères du Grand Quotidien Régional Sud-Ouest, dans un papier qui est paru dans la soirée hier sur Internet, nous ont appris cette nouvelle. Alors, je savais qu'il y avait, vous savez, d'abord les EHPAD, enfin les maisons de retraite hein, de personnes dépendantes, ont une double tutelle, celle de l'État, via les agences régionales de cité, celle des départements. Et donc, naturellement, nous sommes en première ligne sur la bonne santé des EHPAD. Je savais que nous avions fait des tests dans ces EHPAD au début des tests, parce qu'il y avait eu des présomptions. Depuis, aucune information. Et quand j'ai appris ça, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fait joindre le maire de la commune qui n'en savait pas plus que moi, notre préfet de la Charente-Maritime et notre préfète de région à Bordeaux, pas plus. J'ai poussé des cris de rage parce que c'est pas normal dans ce type de situation que le maire de la commune, ses habitants, le département, les représentants de l'État au plus haut niveau ne soient pas au courant.
Évidemment.
Je m'en suis expliqué avec le directeur régional de l'ARS cet après-midi par téléphone, et j'ai été en contact par plusieurs SMS avec Olivier Véran pour le tenir au courant, lui-même découvrant cette situation.
Allez-vous lancer une enquête ? Avez-vous la possibilité juridique de le faire, Dominique Bussereau ?
Écoutez, c'est pas à moi de tirer les conséquences. Hein. Le ministre, moi j'ai été ministre 9 ans, je sais les moyens dont dispose un ministre quand il veut faire connaître la vérité. Il a des moyens d'enquête, il a des moyens de toute nature. C'est à Olivier Véran de décider ce qu'il lui appartient de faire en tant que ministre des Solidarités et de la Santé.
Vous parliez de cette tutelle du département, notamment sur les EHPAD, conjointement avec la région. Les départements qui sont, Dominique Bussereau, en première ligne.
L'État.
L'État, pardon.
L'État,
absolument, l'ARS.
L'État via les agences régionales. régionales de santé.
Absolument.
Qui sont un démembrement régional du ministère de la Santé.
Merci de cette correction. Les départements qui sont en première ligne pour relancer l'activité économique. Et vous étiez hier en visioconférence avec Édouard Philippe pour évoquer justement les mesures que le gouvernement imagine pour aider les finances des départements. Sachant que les départements continuent d'assurer le versement des prestations sociales, le renouvellement des automatiques pour les personnes en fin de droit. Vos pertes de recettes ont été à ce point conséquentes au travers de cette crise ?
Oui. Vous savez, nous avons à la fois une augmentation des dépenses, toutes les dépenses liées à la crise du Covid, toutes les primes que nous allons verser au personnel, aux services d'aide à domicile, aux maisons de retraite, etc. Donc ça sont des dépenses nouvelles. Et en termes de recettes, une de nos recettes les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est-à-dire quand vous achetez une maison, un appartement, un garage, vous payez des droits à un notaire, mm-hmm. Il y en a une partie qui revient au département. Et ça s'est complètement arrêté, puisque les agences immobilières étaient fermées, oui. Les offices de notaire étaient fermés. Je vais vous donner un exemple. Exemple, hein, pour un département comme le mien, c'est à peu près 42 millions d'euros de pertes à ce jour. Et au plan national, nous estimons pour l'année 2020, les mois qui restent, une perte d'environ 4 milliards d'euros. Et c'est évidemment de l'argent que nous n'aurons pas pour participer à la relance économique et sociale.
Et vous avez besoin de cet argent. Vous demandez l'aide de l'État
et
clairement.
Et nous avons besoin de cet argent, non pas pour jouer les grippe-sous ou non pas pour jouer les pleureuses auprès du gouvernement. Mais je crois qu'il y aura il y a un impérieux besoin de relance. Il faut aider le monde culturel, il faut aider le monde associatif. Il faut aider les toutes petites entreprises, l'État s'occupant des grandes et les régions des intermédiaires. Et donc, il faut que nous soyons en mesure de le faire. Donc, nous avons discuté hier avec le Premier ministre et un certain nombre de membres du gouvernement. L'État nous a proposé des avances. J'aurais préféré plutôt des compensations qu'à des avances. Mais enfin, c'est un geste significatif. Et nous allons continuer, bien sûr, les discussions parce que, par exemple, le RSA va éclater. Depuis mars-avril, dans tous les départements français, outre-mer et métropole, le RSA a augmenté considérablement. Et avec le chômage qui risque de venir, on risque d'avoir une montée très forte du RSA et donc de la charge des départements pour le RSA.
Oui, or vous avez une situation économique à redresser en local. Vous aviez d'ailleurs sollicité une faculté pour les conseils départementaux d'accorder des aides économiques directement aux petites entreprises, aux artisans du territoire pendant la crise. Cette dérogation, si j'ose dire, va pouvoir se poursuivre dans la situation.
Écoutez,
de déconfinement.
Ce n'est pas autorisé officiellement,
oui.
Mais beaucoup de préfets ont une attitude intelligente quand ce sont des dispositifs qui ne claironnent pas pour ne pas gêner la compétence économique des régions et qui sont à dimension, je dirais, réaliste.
Vous avez évoqué plusieurs sujets avec le Premier ministre hier, j'imagine, notamment les collégiens décrocheurs. Comment les aider à remonter la pente avec cette scolarité qui a été abrégée avec le Covid ?
C'est très compliqué, c'est pas du domaine naturellement du département. Nous sommes ceux qui fournissons les lieux, qui fournissons les équipements, le numérique, le personnel, la restauration, etc. Mais c'est vrai que nous avons une grande crainte sur ces collégiens décrocheurs. Les régions ont la même crainte par rapport aux lycéens, en particulier les lycées professionnels. Et donc je trouve que l'idée de Jean-Michel Blanquer de faire une espèce d'apprentissage en continu pendant l'été pour ceux qui le souhaitent est très importante. Ça implique bien sûr la complicité des familles, un engagement du monde enseignant et un volontariat des enfants. Mais ça serait trop bête que pour 2 ou 3 mois, des vies entières soient foutues.
Le monde d'après, Dominique Bussereau, c'est la question que nous partageons tous et presque au quotidien, j'allais dire. Comment le voyez-vous pour soutenir, vous, très directement l'activité économique dans les départements que vous représentez ? Quelle urgence pour un certain nombre de secteurs ?
Les urgences sont à la fois sociales et économiques. On voit bien que l'organisation du travail peut évoluer. Elle va d'ailleurs évoluer avec le télétravail, oui. Certainement des formes d'organisation du travail différentes. On voit que les besoins sociaux vont être énormes. Donc il faut faire attention à pas retomber dans une société d'assistanat, mais à trouver les bonnes politiques sociales. Et puis on voit aussi des nouveaux besoins. Je vais prendre 2 exemples par rapport aux questions que vous m'avez posées. Les écoles, on s'aperçoit que beaucoup d'écoles sont trop petites, qu'on peut pas y mettre plus de 10 ou 15 élèves. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a certainement un grand plan pour les communes avec l'État pour améliorer nos écoles. Et on parlait des EHPAD tout à l'heure. Imaginons qu'en ce moment nous soyons en canicule. Il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas la canicule. Les personnes âgées sont dans les EHPAD confinées dans leur chambre. Elles sont doublement confinées dans l'EHPAD et dans leur chambre. Et chacun sait que dans un EHPAD, en général, il y a qu'une grande pièce, qui est la pièce de restauration, qui est climatisée. Donc,
ouais.
Si nous avions actuellement canicule plus les mesures de précaution anti-Covid, ce serait dramatique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on engage également un vaste plan de rénovation, de modernisation, de climatisation de tous nos EHPAD.
Exemple très précis pour anticiper. En qualité de président de l'Assemblée des départements de France et président du département de la Charente-Maritime, merci Dominique Bussereau de cette intervention sur Europe 1 ce soir. Merci à vous.
Merci à vous, Wendy Bouchard.
À bientôt.
19h23, le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Voici maintenant l'écho de la planète, le journal de l'environnement présenté comme chaque semaine par Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Au sommaire, la réouverture des parcs et jardins tant attendue à Paris. Le plan vélo du gouvernement multiplié par 3 avec des cours de remise en selle payés par l'État pour apprendre à circuler en ville. Et puis cette tentative historique de transition écologique parmi les actionnaires de Total.
Alors ça y est, les parcs et jardins ouvrent donc partout en France et à Paris où l'annonce était particulièrement attendue.
Oui, tous les espaces verts sont désormais ouverts avec port du masque recommandé comme dans tous les espaces publics de la capitale, mais pas obligatoire. Le nombre de personnes admises ne sera pas limité. S'il y a vraiment trop de monde, des agents de la ville sont autorisés à intervenir. L'adjointe aux espaces verts de la mairie de Paris, Pénélope Comites, précise ce que les Parisiens auront le droit désormais de faire dans les parcs.
Les Parisiens pourront donc profiter des parcs et jardins, s'asseoir sur les pelouses. Ce qui n'est pas autorisé, c'est les sports collectifs, mais les sports individuels de type tai chi, yoga et bien évidemment la promenade. Alors les aires de jeu vont rouvrir progressivement. Je pense que ce sera maximum sous 10 jours pour toute la grande majorité des aires de jeu.
Et les pique-niques ne sont pas interdits mais déconseillés. Pas de groupe de plus de 10 personnes pour l'instant. Et il y a des médiateurs dans les parcs à partir de ce week-end pour faire de la pédagogie.
Et depuis le déconfinement, c'est une affaire que vous suivez de près. Après, la poussée du vélo, Virginie Salmen, se confirme.
Oui, le plan vélo du gouvernement a été multiplié par 3 pour passer à 60 millions d'euros. Ce n'est pas encore au niveau d'autres pays européens, mais ça avance. Cet argent sert à financer, entre autres, un forfait de 50 euros pour aller faire réparer son vélo et se remettre en selle. Et c'est pas toujours évident de se lancer sur les routes, surtout en ville. Alors on peut aussi se faire payer des cours par l'État dans ce qu'on appelle des vélos-écoles. C'est un dispositif qui n'est pas encore très connu. François Fatou dirige celle de Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Il faut naturellement développer ça. Les vélo-écoles sont indispensables pour le développement du vélo. La plupart des gens savent faire du vélo, mais n'en savent pas, n'ont pas l'adresse suffisante, n'ont pas la connaissance des dangers et donc n'osent pas partir dans le trafic.
Et le gouvernement promet aussi d'aider les communes à pérenniser ces 1000 km de pistes cyclables temporaires déployées pour le déconfinement.
Une offensive à la une maintenant, offensive écolo parmi les investisseurs du groupe pétrolier Total.
Oui, 11 actionnaires parmi lesquels la Banque Postale ou le Crédit Mutuel ont soumis au vote une motion qui proposait de modifier les statuts du groupe Total pour renforcer sa contribution à la transition écologique. C'est un tournant historique selon les ONG qui parlent de cette motion comme d'une véritable révolte contre l'entreprise, résolution qui a recueilli finalement le soutien de 16,8% des actionnaires. Elle a donc été rejetée, mais c'est un signal fort envoyé à Total. Ces investisseurs ont l'intention de poursuivre leur engagement.
Et puis on termine l'écho de la planète avec le conseil de votre copine Catherine.
Oui, Catherine, ma copine qui a fait un virage écolo il y a presque 2 ans maintenant, quand elle a ouvert les yeux sur les conséquences du changement climatique. Alors elle tourne et retourne dans sa tête les chiffres qui sortent depuis le déconfinement. Les émissions de CO2 n'ont baissé que de 30% en France pendant la période de confinement par rapport à 2019, notamment parce que les secteurs de l'industrie, la production d'énergie et l'agriculture ont été plus faibles, voire inchangés. Bilan, même avec cet arrêt radical pourtant, pendant 2 mois, on n'arrive pas à la réduction de CO2 nécessaire pour rester sous le degré 5 de réchauffement. Autrement dit, on n'atteint même pas l'objectif de l'accord de Paris qui dit qu'il faut réduire de 7,6% les émissions chaque année. Et les scientifiques nous annoncent l'année la plus chaude jamais enregistrée. Alors donnons l'impulsion, nous dit Catherine Margne, en particulier sur la baisse de consommation d'énergie. C'est un gros levier. Donc on laisse plus souvent la voiture au garage, on consomme différemment et puis on oublie par exemple le voyage au Japon, tout en croisant les doigts, dit-elle, pour que des décisions politiques fortes suivent. Les éco-gestes seuls, ça ne suffit pas.
Virginie Salmen, l'écho de la planète, à samedi prochain sur Europe 1. Merci Virginie.
19h29, on vous retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand journal du soir et c'est l'heure de l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFPOP. Mais avant, le rappel des titres.
Et l'essentiel de l'actualité, elle nous a rejoint. Sophie Tussaud, bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. 57 morts en 24 heures dans les hôpitaux en France et le bilan quotidien fourni ce soir. La baisse se poursuit également en réanimation. Tous les parcs et jardins de France sont rouverts, une étape avant la réouverture mardi des cafés et restaurants. En parallèle, le parc Astérix annonce la réouverture le 15 juin avec des mesures sanitaires exceptionnelles. Importante mobilisation contre le plan d'économie de Renault. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale entre l'usine de Maubeuge dans le Nord et l'hôtel de ville de la commune. Flambée de violence aux États-Unis, les émeutes ont gagné la nuit dernière plusieurs grandes villes du pays, dont Washington. Une vague de colère après la mort de George Floyd, un noir américain de 46 ans, lors de son interpellation par un policier. Après une tentative arrêtée à la dernière minute mercredi en raison de la mauvaise météo, SpaceX va retenter de lancer son premier vol habité. Il est prévu à 21h22, heure française, si le temps le permet.
Merci Sophie, à tout à l'heure, 20h pour nous informer.
Et lui aussi nous a rejoint en studio, c'est Frédéric Dabi.
Ah oui, le directeur général adjoint de l'IFOP pour nous parler notamment des politiques face au monde d'après. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et ravi de vous retrouver avec ce sondage IFOP inédit. Cette enquête qui va illustrer votre propos ce soir, vous qui avez réussi à consulter tous les députés et tous les sénateurs français.
Oui, c'est une cible très rarement investiguée dans des enquêtes d'opinion. Un parlementaire sur six, plus de 153 ont répondu à cette enquête IFOP Interrel pour savoir comment les parlementaires avaient vécu le confinement et surtout comment ils se projetaient dans la France d'après.
Quelle priorité à mettre en œuvre, évidemment, c'est ce que vous avez tenté de percevoir.
Tout à fait, avec un premier enseignement, en dépit de la période hors norme et inédite du confinement, une majorité de parlementaires, 56%, déclarent que le Parlement a bien fonctionné, avec bien sûr une différence entre l'Assemblée nationale, où il y a eu un foyer de contamination, 42%, oui, et 73% chez les sénateurs. Pour autant, tous les parlementaires se retrouvent sur un constat assez cinglant, l'idée que la crise du coronavirus a accéléré le déclin du rôle et de la place du Parlement au profit d'un exécutif prenant des mesures unilatérales. À peine un tiers des parlementaires, surtout des parlementaires de La République En Marche, ont eu le sentiment que, malgré le caractère exceptionnel de la crise, le Parlement avait conservé un rôle prépondérant.
Alors que les politiques, on le sait, ont été très exposés, évidemment, à ce virus, et que la demande de contrôle de l'action du gouvernement reste capitale.
Oui, on peut dire que cette crise a fonctionné un peu comme un électrochoc pour les parlementaires que nous avons interrogés, avec l'idée que cette crise sanitaire a spectaculairement accéléré les demandes visant à réformer le Parlement. La première demande, c'est contrôler l'action du gouvernement qui devance des réformes de fonctionnement plus techniques touchant à la vie parlementaire, le travail en séance ou en commission. Il y a eu aussi l'acte lourd, l'idée que le plan de déconfinement qui a été voté à l'Assemblée, un peu comme une, dans les deux chambres, un peu comme une chambre d'enregistrement, n'a pas fait l'objet de débat. Et puis il y a aussi un vœu que nos parlementaires ont exprimé, l'idée qu'il faut inscrire le Parlement dans la cité. Les parlementaires refusent de se complaire dans un splendide isolement, ils veulent être de plus en plus au contact des aspirations de la société civile. Ça passe par prendre en compte des pétitions citoyennes, ça passe par, comme on l'a vu pour la conférence climat, faire en sorte que des conférences citoyennes accompagnent le travail législatif. Il y a une envie très forte de réforme, plus au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, plus chez les parlementaires récents que chez les parlementaires anciens, mais on a quand même un consensus assez net.
Alors ça, c'est le constat de cette enquête, de ce sondage. Comment on dresse maintenant la feuille de route avec les priorités, les urgences, les obligations?
Voilà, c'est vrai que les parlementaires, et là, il n'y a pas le moindre clivage au-delà de leur sensibilité, de leur trajectoire partisane différente, oui, se retrouvent pour tirer de manière unanime les grandes leçons de la crise. Il faut restaurer l'hôpital, il faut valoriser le pouvoir d'achat des professions qui étaient en première ligne. Et comme vous le disiez, Wendy, ils adressent une feuille de route au gouvernement, je dirais à la France, avec comme moyen pour y parvenir, mettre en place un nouvel acte de décentralisation dans un contexte d'un État central qui a été déficient. On a des priorités très nettes. Et moi, ce qui m'a frappé, Wendy, c'est que les parlementaires, on dit qu'ils sont déconnectés des réalités, déconnectés des attentes des Français. Et ben, je dirais qu'ils sont des Français comme les autres, parce qu'ils ont adressé des priorités dans cette feuille de route qui sont exactement les mêmes que celles qu'on avait mesurées il y a 15 jours dans une enquête IFOP fiduciale pour le JDD.
C'est intéressant et c'est rassurant. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Juvin, qui n'est pas député, qui est maire, mais qui nous parlait de la vertu des circuits courts. C'est aussi ce que demandent les parlementaires.
Clairement. Premier objectif dans cette feuille de route, la restauration de la souveraineté économique via la relocalisation et le Made in France. Ils sont 100% à dire que la France doit réinvestir dans ses productions stratégiques, qu'elle doit également faire perdurer les habitudes de consommation Made in France. Deuxième priorité, il faut poursuivre la lutte contre le réchauffement climatique. Mais là aussi, chez les parlementaires, comme chez les Français, il y a des tensions. Ce que j'appelle la bataille d'Hernani entre le tout emploi et le tout environnement. Il n'y a que 58% des députés qui estiment que la relance de l'économie ne doit pas se faire au détriment des engagements environnementaux. On sait très bien, quand une crise arrive avec un chômage, on l'a vu cette semaine, qui semble exponentiel, on a tendance à mettre peut-être de côté des questions environnementales. On a cette même tension chez les parlementaires que dans l'ensemble des Français.
Et c'est un point qui va faire réagir notre invité qui intervient juste après, le réalisateur Cyril Dion. Il y a une autre réalité qui a été très bien soulignée dans cette enquête par ces parlementaires, sondage IFOP, c'est de ne pas faire payer aux Français fiscalement les effets de cette crise sanitaire qu'on a tous subi.
Très clairement, ce qui s'est passé en 2011, puis 2013, le choc fiscal sous François Fillon, sous François Hollande, ne veut pas, n'est plus du tout d'actualité. Presque 85%, les parlementaires se rejoignent pour dire que la hausse des dépenses publiques permettant d'amortir le choc économique de la crise doit être poursuivie, même s'il y a un creusement de la dette. On fait un petit peu fi de l'orthodoxie budgétaire. Là aussi, comme les Français, les parlementaires sont prêts à remettre la question de la réduction de la dette à demain. L'idée est que un choc fiscal qui avait fait tant de mal pour la reprise dans les années 2011-2014 ne doit pas être de mise pour cette nouvelle crise.
Voilà pour ce sondage IFOP inédit auprès des parlementaires français sur la France d'après. Mais votre œil s'est encore ému cette semaine par une disparition après celle de Jean-Loup Dabadie, celle de Guy Bedos. Et vous retenez d'abord de l'artiste son incursion au théâtre, dont on parle moins.
Déjà, c'est vrai que ça a été une grande émotion après Michel Piccoli, Jean-Loup Dabadie. Il y a tant de personnalités qui ont accompagné nos vies, qui nous quittent ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'au-delà, on a souvenir des one-man shows de Guy Bedos. Il a fait une incursion remarquée, Wendy, au théâtre en reprenant, en jouant Brecht dans une mise en scène de Jérôme Savary. C'était en 1993-94 avec la résistible ascension d'Arthur Howe, c'est-à-dire une parabole de la prise de pouvoir d'Hitler. Il jouait une sorte de gangster mafieux new-yorkais. Il était absolument époustouflant. C'est dans cette pièce s'achève par la fameuse phrase suivante que tout le monde connaît. Le ventre est encore fécond, d'où est sorti la bête immonde. C'est le Guy Bedos que j'avais en tête. J'ai également celui qui s'est engagé de manière indéfectible sur les questions de fin de vie, sur la cause du droit à mourir dans la dignité. Il était membre d'honneur de l'ADMD, l'association de Jean-Luc Romero. Et voilà, c'était pas un sujet de gauche ni de droite, mais c'était un sujet terriblement humain, comme pouvait l'être Guy Bedos.
Et son engagement, vous avez raison de le souligner, Jean-Luc Romero l'a souligné lui aussi en rendant hommage cette semaine, membre de l'ADMD, Guy Bedos, et votre œil a partagé aussi votre émotion, Frédéric Dabi. Merci de votre présence ce soir
en studio.
Merci
Wendy, c'est un plaisir.
Et à la semaine prochaine sur Europe 1. Merci.
Au revoir à tous.
Et dans un instant sur Europe 1, affaire à suivre, un monde meilleur demain est-il possible?
C'est l'une des obsessions de notre invité, écrivain, réalisateur Cyril Dion, avec une écologie à portée de main. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir. Et chaque semaine, Wendy, eh bien, nous suivons des dossiers qui méritent d'être approfondis.
Et ce, je vous parle de demain, ce nouveau monde en marche. Eh bien, c'était un film documentaire très prisé du public, César du meilleur film documentaire. C'est désormais un livre, le livre du film qui vient de sortir aux éditions Babel cette semaine. Bonsoir Cyril Dion.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous pour réfléchir à cet avenir commun, vous à qui l'on doit ces films diffusés dans une trentaine de pays. C'était il y a 4 ans. Et ce voyage qui continue de se poursuivre avec vous, car le message de ce film est tellement d'actualité. Quelles initiatives, quelles énergies pour inventer ce monde à venir. Vous faites confiance dans le civisme ou il va falloir que vous aiguillez chacun de ceux qui peuvent nous écouter ce soir, Cyril Dion?
Malheureusement, on a quand même tendance à constater que les êtres humains changent ou opèrent des transformations radicales quand ils sont au pied du mur. On est tous un peu comme ça. C'est un peu comme si vous disiez, est-ce que vous avez confiance dans la nature humaine pour arrêter de fumer? En règle générale, non. On arrête de fumer quand il se passe quelque chose dans nos vies. C'est ça qui est problématique. Là, on l'a vu avec le coronavirus. Les gouvernements avaient des alertes depuis des années hein, sur la possibilité d'une pandémie et puis il a fallu attendre qu'elle soit là, qu'elle soit dans au pied de nos cités pour qu'ils mettent en œuvre des mesures. Donc on a la même problématique avec le changement climatique. Ça fait des décennies que les scientifiques alertent. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à croire à ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à anticiper plutôt qu'à attendre la catastrophe pour réagir.
Alors, il y a peut-être des faits qui vont vous rassurer. Ce que disait à l'instant Frédéric Dabi de l'IFOP, c'est 9 parlementaires sur 10 qui voient dans cette crise la nécessité d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et qui sont nos porte-voix, nos porte-paroles. Ça, c'est rassurant tout de même, Cyril Dion.
Oui, c'est rassurant. À la fois, en fait, c'est ce qui est en train de se produire. Ça fait deux étés qui sont caniculaires. Mm-hmm. Là, on est en train de vivre le printemps le plus chaud quasiment depuis ces 20 dernières années. Et on vient de vivre une crise sanitaire très importante qui nous a permis de toucher du doigt la fragilité de nos sociétés. Donc tout ça, évidemment, fait son chemin. Et j'espère que ça va faire son chemin jusqu'au bout et qu'on va pouvoir prendre des mesures vraiment drastiques qui nous permettent de ne pas subir la catastrophe climatique.
Et puis, peut-être pas vous, mais nous sommes quand même relativement des paradoxes ambulants. Hein. À la fois, on a envie de réfléchir au terme de cette crise et on entend, comme le diffusait nos reportages tout à l'heure, aux Galeries Lafayette, au printemps, cette thérapie par la consommation. C'est ces choses qui nous rattrapent dans cette société dans laquelle nous avons grandi.
Oui, absolument. En fait, moi, je suis très attaché à l'idée du récit, c'est-à-dire que les organisations humaines se construisent autour de grands récits, que ce soit les religions, que ce soit les systèmes politiques comme le communisme, comme le libéralisme, comme la monarchie en son temps. Et là, le récit dans lequel on vit, c'est un récit purement consumériste. Et d'ailleurs, on voit qu'on a construit toute notre société autour de ça et que si on arrête ce cycle incessant de production-consommation, donc on arrête en gros de faire monter le PIB, d'avoir de la croissance et tout ça, tout s'effondre. Et vous avez vu en 7 semaines ou 8 semaines, 40 millions de chômeurs aux États-Unis. Beaucoup de chômeurs en France, 6 points de PIB, je crois, et ça va être 9 perdus pour la France. Donc on voit bien que c'est très fragile. Et on ne devrait pas être dépendant comme ça, on ne devrait pas être obligé de consommer pour que nos sociétés puissent continuer à survivre. C'est tout le paradoxe qu'on a besoin de résoudre par rapport à la crise écologique.
Alors justement, nous sommes face à des hommes et des femmes qui vont affronter une détresse ou un désarroi, qui seront peut-être hélas demain au chômage. Et est-ce à ces femmes, à ces hommes sans emploi demain que vous vous adressez pour construire le monde qui sera de nôtre ?
Ben non, c'est évidemment pas d'abord à eux qu'il faut s'adresser. Eux, ils sont dans une logique de survie. Ce qui est intéressant
à regarder. Ou de reconversion.
Ou de reconversion, mais en règle générale, cette reconversion-là, elle est quand même beaucoup facilitée par la société. Donc il y a certaines de ces personnes qui vont y arriver tout seuls, et c'est super. Mais ce qui est très important, c'est que les entreprises se reconvertissent, que les États et que les supra-États comme l'Union européenne investissent massivement pour réorienter nos économies. C'est d'ailleurs le sens de ce que la Convention citoyenne pour le climat est en train de faire, d'essayer de construire un plan collectif. On a eu plusieurs études ces dernières années, notamment une étude qui a été faite par le cabinet Carbone 4, qui montrait que même si chacun d'entre nous, les citoyens, avions un comportement écologique héroïque, en gros, ça représente 25% du problème. Donc on voit bien que les 75% qui restent, ils sont structurels, et que parfois, évidemment, les actes des consommateurs ont une influence, que nos votes ont une influence, mais qu'il faut vraiment, vraiment se concentrer aujourd'hui sur les grandes orientations qui sont prises par les États, par les multinationales, par les économies, etc.
Je vais vous faire réagir, par exemple, à un invité qui était sur notre antenne cette semaine, le patron de Danone, Emmanuel Faber, qui parlait justement de la nécessité de limiter l'impact environnemental de ses produits, d'en terminer avec le plastique vierge et de réduire drastiquement les suremballages aussi. Et la première chose que nous faisons d'ailleurs est de jeter, une fois qu'on arrive à la maison, ces emballages. Ça fait partie des gestes citoyens qui feront petit à petit le monde de demain, celui que vous voulez, Cyril Dion, comme militant aussi.
Oui, oui. Enfin, après, je connais bien Emmanuel Faber. Ça fait plus de 10 ans qu'on dialogue et que à un endroit qui est un des pires endroits pour l'écologie de la planète, qui sont les conseils d'administration des grandes multinationales, il essaye de faire bouger les choses. Mmh. Et là, c'est vrai qu'il est en train de prendre des positions qui sont relativement courageuses et qu'on voit pas beaucoup dans les multinationales. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Il y a son engagement à lui qui est a priori réel, mais il y a surtout les signaux qui sont envoyés par les consommateurs depuis un certain nombre d'années. J'ai fait un film qui s'appelle Après-demain, qui était justement un retour sur le succès de demain et l'impact que ça avait eu. Et on avait intégré une petite séquence avec Emmanuel Faber qui parlait aux autres chefs d'entreprise dans un grand sommet sur l'alimentation. Et en gros, il disait à ses pairs, c'est-à-dire aux autres patrons des multinationales, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que l'eau devrait être gratuite, que nous, les multinationales, on a une responsabilité considérable, à la fois sur la pollution, à la fois sur le fait que l'alimentation n'est pas forcément répartie de la meilleure façon qui soit sur la planète. Donc, on a deux choix. Ou on va contre ce mouvement de la société, coûte que coûte, ou alors on essaie de comprendre qu'on doit avoir une fonction sociale, une mission dans la société, et que cette mission ne peut pas se contenter d'être simplement faire du profit et distribuer des dividendes. C'est impossible.
Eh bien, je vous recommande la lecture de Demain, Un nouveau monde en marche, le livre du film de Cyril Dion, réalisateur, écrivain et acteur aussi de la société de demain, avec toutes ces initiatives par-delà le monde que vous pouvez partager et lire du moins. Merci Cyril Dion de vos mots sur Soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Merci. Cyril Dion qui parlait d'alimentation, eh bien...
J'allais dire, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une recette.
Et nous sommes dans le domaine du raisonnable, avec la recette dans l'ombre des grands chefs, impressionnante ce soir, cela dit, gâteau au chocolat à plusieurs étages. Pierre Herbelot, on est avec vous, bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parce que c'est peut-être la dernière fois que c'est moi qui cuisine pour vous. A priori, la semaine prochaine, on sera de nouveau au restaurant. Alors on va se faire plaisir. Gourmandise puissance 4, je vous propose ce soir le brownie quadruple chocolat du chef Karim Bourgi, pâtissier notamment pour la Maison du Chocolat à Paris. Il y a même peut-être un peu de caramel coulant au milieu. On commence tout de suite. Tout d'abord, on va s'attaquer à l'appareil à brownie. Je mets au bain-marie du beurre et du chocolat noir. C'est le premier chocolat de notre série du soir. En attendant, dans le bol de mon robot, je verse mes œufs, mon sucre roux. Et on commence à mélanger ça tranquillement. Je récupère le chocolat et le beurre fondu au bain-marie et je les incorpore à mon mélange sucre-œuf. Dès que c'est mélangé, j'ajoute ma farine et mon cacao en poudre. Et là, on va s'occuper maintenant des noisettes. Je les ai passées 20 minutes au four à 160 degrés pour les aider à développer leur goût. Et là, on va les concasser grossièrement. Je les verse à l'intérieur. Et on termine le mélange. On peut maintenant couler notre appareil à brownie sur un tapis en silicone. Alors moi j'ai une plaque à génoise parce qu'il y a un petit rebord qui va nous permettre de donner un tout petit peu de volume à notre brownie. Il faut pas qu'il soit très épais parce qu'on va le couper en deux ensuite et on va superposer deux morceaux. Dernière étape avant d'enfourner. Et oui, je vous ai promis 4 chocolats. Voilà les 3 autres. Du chocolat au lait, du chocolat blanc et du chocolat blond, ou aussi appelé chocolat dulcec, et un petit goût de caramel un peu sucré. Donc je concasse là mes 3 nouveaux chocolats. On va les rajouter sur notre appareil avant d'enfourner. C'est magnifique. J'ai ma plaque avec mon appareil brownie chocolat noir, les petites noisettes concassées, les 3 chocolats par-dessus. On est en train de pousser la gourmandise au rendard. J'ai hâte de goûter. Allez, au four. Voilà, ça fait 15 minutes. Ça sent bon le chocolat, ça sent bon la noisette. On va le laisser refroidir et on va s'attaquer au caramel. Alors, d'un côté, je mets à infuser de la crème avec un peu de vanille, un peu de cannelle. Et à côté, on va s'attaquer au caramel. Dès que le sucre est bien fondu, on peut ajouter le beurre. Ça permet de décuire une première fois le caramel. Et on décuit le caramel une deuxième fois avec notre mélange crème, vanille, cannelle. On le réserve de côté quelques instants. Alors là, je retourne à mon brownie qui a tiédi, et ce que je vais faire, c'est qu'avec un emporte-pièce, rond, carré, n'importe ce que vous avez, on va tailler dedans un nombre pair de brownies. Voilà. Je vais garder mon brownie dans mon emporte-pièce, je vais venir couler du caramel, et je vais remettre un deuxième morceau de brownie par-dessus, et ça va faire comme un espèce de sandwich brownie caramel. Je vous laisse imaginer un petit peu le résultat final, ça va être assez extraordinaire. On va mettre ça au réfrigérateur pour quelques heures, le temps que ça fige bien. Et après, on pourra les déguster ensemble. Alors, je me lance. Le chocolat, la noisette, on a un côté pâte à tartiner là qui arrive tout de suite. Avec ce caramel qui vient fluidifier un peu le brownie, qui lui donne un côté très régressif, très sorti d'école. C'est une petite madeleine de Proust chocolatée, noisetée, hyper gourmande. Brownie quadruple chocolat de Karim Bourgi. 4 fois plus de plaisir, tout simplement.
Génial, mais attends, il est super Pierre, parce qu'à la fois, il cuisine, mais il approuve sa cuisine.
Ah oui. On a pris 3 kilos là, non.
Ça doit être formidable. Merci Pierre. Herbulot, on retrouve la recette sur europe1.fr, évidemment. Voilà. À tout de suite avec le retour de l'interview de Philippe Legrand, Cali, ce soir.
19h52, la suite du Grand Journal du soir, Wendy Bouchard.
C'est un jour, une histoire avec Paris Match, Europe 1 et Philippe Legrand, votre invité ce soir qui retient une date de notre histoire. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous, bonsoir Cali.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Alors on va partir en cavale, c'est le titre de votre album, mais avant de parler de votre musique, on va évoquer une autre musique, celle d'une autre époque que vous avez choisi de nous raconter ce 10 mai 1981. Vous l'avez vécu, où étiez-vous? C'est la date de l'arrivée au pouvoir, la victoire de François Mitterrand, qui est élu président de la République avec 51,8% des voix.
Juste savoir que ma famille, une famille très à gauche, et puis mon papa qui allait dans des meetings politiques et qui allait, et je le voyais dans ces salles enfumées. Je le voyais crier, hurler, souvent les larmes aux yeux, qui défendait des choses, et je le regardais comme ça, c'était troublant pour moi. Et ce 10 mai 81, donc j'ai 12 ans, je suis dans le club de rugby de Vernet-les-Bains, le rugby olympique Vernetois, le ROV, et nous partons jouer un match de rugby, en tournoi de rugby en Cerdagne, donc c'est à 2 heures de bus de chez moi. Et fin de la journée, nous rentrons en bus comme ça, et on est tous heureux. Et là, il y a l'entraîneur qui s'approche de nous et qui dit, je vous l'annonce, le président de la République, c'est François Mitterrand. J'ai fermé les yeux, je me suis recentré sur moi-même et j'ai pleuré parce que j'ai pensé à mon papa. Je me suis dit, je vais rentrer à la maison et je sais que mon papa va être tellement heureux. Alors, le bus est arrivé sur la place du village et là, il y avait la fête et j'ai vu mon papa pleurer. Et pour moi, c'était quelque chose de gigantesque. C'était une fête comme si c'était au-delà d'une victoire. C'était un bouleversement total. Les gens se prenaient dans les bras, s'embrassaient. C'était dingue.
Alors Cali, ce soir-là, du haut de vos 12 ans, vous, le rugbyman, c'est ce que vous nous dites à l'instant, et pas encore le chanteur. Et pourtant, quand on regarde cette arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République, que de changements annoncés. C'est l'arrivée et l'explosion des radios libres. Et puis, un peu plus tard, c'est aussi l'installation de la fête de la musique. Ça a compté pour vous, le chanteur que vous êtes?
Oui, moi je suis très admiratif et je me sens proche de Jack Lang, parce que j'ai ce souvenir de la première fête de la musique. Dans mon petit village, timidement, des gens sont descendus dans la rue, jouaient un petit peu de musique. C'était le début, on savait pas trop, donc c'était génial. Mais je me souviens surtout, à la télévision, à minuit, ils ont passé un film des Beatles, et à 3h du matin, un film des Clash. J'étais tout seul sur mon canapé, j'ai regardé autour de moi et c'était l'explosion. C'est-à-dire que j'ai vu Joe Strummer, le chanteur des Clash, qui me parlait, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était un éclair, c'était un bouleversement total. J'ai su à ce moment-là que ma vie allait changer, que j'allais prendre un autre chemin, un chemin qui serait la musique. Il avait ce regard dans ce film-là, Joe Strummer, tourné vers l'éternité. Et quelque part, il nous pointait du doigt, il nous disait, il faut aller là-bas. Et c'est pour moi, cette fête de la musique-là était la première bouleversante, parce qu'elle m'a donné le ticket pour le reste de ma vie, j'en suis sûr.
Il y avait des mots aussi, Cali, hein, ce 10 mai 1981, prononcé par le président François Mitterrand, qui vient d'être élu. Il parle des forces de la jeunesse, des forces de travail, des forces de création et du renouveau que vous évoquez là. Souvenez-vous aussi de ce slogan, de cette expression que Jacques Séguéla, le publicitaire, avait imaginé pour lui, la force tranquille. Vous avez aussi cette expression à l'esprit?
La force tranquille, évidemment. Quand on parle des présidents, je pense que jusqu'à Jacques Chirac, quelque part, le président avait une place différente, vraiment au-dessus. C'était comme quelque chose d'intouchable, voilà. Et je trouve qu'on ne retrouve pas, évidemment, ça aujourd'hui. Le président n'a pas la même l'aura, le charisme, ce n'est pas la même chose. Il y avait toute cette culture aussi, quand on lit aujourd'hui les lettres à Anne de François Mitterrand, on a quand même quelqu'un qui a dirigé un pays et qui avait à côté cette poésie, cette culture, ce pouvoir des mots, c'était merveilleux.
On va, Cali, poursuivre la cavale, c'est le cas de le dire, cette promenade dans le temps, avec ce temps d'aujourd'hui, votre album qui sort, le nouvel album, qui vous raconte dans votre diversité. Alors je vous cite, il y a derrière cette cavale de l'amour, mais aussi des larmes. C'est ce que vous nous racontez avec un court-métrage, une nouvelle, un livre et l'album.
J'ai voulu aller totalement vers la liberté. Alors je me suis dit, le moment de l'adolescence, cette meute d'amis qui autour de moi, comme une seconde famille, on a 15 ans, on n'a pas encore fait l'amour, mais on ne pense qu'à ça. Le corps qui craque. Alors j'ai grandi après et j'ai oublié un petit peu ces moments-là. Alors comme tout le monde, j'ai rempli mes sacs de chagrin, de joie, de défaite et de victoire. Et aujourd'hui, je suis à un âge où je veux revenir à ce moment-là qui est essentiel, crucial. l'éternité devant. Et la liberté totale pour moi, c'était faire un disque, c'était réaliser moi-même des images. J'ai réalisé des images, comme vous disiez, avec j'ai réalisé un court-métrage avec Yann Oran, un formidable photographe. C'est écrire une nouvelle qui parle de ce disque, qui parle de ces images. Et j'ai voulu faire une totalité en tout, comme un grand puzzle. Et les gens qui s'intéressent à ma petite histoire vont pouvoir trouver des clés et vont pouvoir s'amuser à peut-être trouver quelque chose que j'ai au fond de moi. Oui.
Merci Khalid de nous avoir emmené en cavale, en balade, et d'avoir raconté ce 10 mai 1981 sur Europe 1. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Un jour, une histoire avec Khalid et Philippe Legrand. J'étais ravie de vous retrouver pour ce 18-20 dans les studios d'Europe 1, chère Marlène. Kevin Ousty aux commandes de ce programme. Fabien Lecoeur, qu'on retrouve demain.
Demain, 18h, on parlera de Marilyn Monroe.
Ah, formidable. Merci. Merci à tous, chers auditeurs. Demain, je vous donne rendez-vous à 18h.